I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Patrick Béja ici, qui vient de passer donc ses 10 ans d'émission. J'espère que vous avez apprécié l'épisode qui est venu juste avant. 10 ans, et même j'aurais tendance à dire putain 10 ans, comme disent certains. Ça fait quand même un bon moment, mais on en a assez parlé à l'épisode précédent. On va se tourner vers l'avenir, on va parler de Facebook, qui malheureusement est l'avenir, clairement, d'Amazon, d'Apple, de Bug Bounty et de plein d'autres choses. Et notamment pour nous aider à décortiquer tout ça, y compris le Bug Bounty, on a Corben qui se joint à nous. Comment ça va, Corben ?
Bah écoute, ça roule. Bon anniversaire, hein. 10 ans, c'est pas mal. Hein. C'est encore un peu jeune, mais bon, c'est bien.
En fait, l'émission va entrer dans sa crise d'adolescence d'ici quelques années. Donc, si vous pensez qu'on était invivable jusqu'à maintenant, attendez, vous n'avez rien vu encore.
Ouais, moi, j'ai bientôt avoir 15 ans. Donc, tu vois, on se suit.
On n'est pas loin, ouais.
Tu ne me rattraperas pas.
Bon, un qui n'a pas attendu d'avoir 15 ans pour rentrer dans sa crise d'adolescence, c'est Cédric Bonnet qui joint à nous aussi.
Eh oui, comment allez-vous ?
Ça va.
Moi, j'adore Patrick parce qu'on discute avec lui avant l'émission. Et puis d'un coup, il commence au rendez-vous tech, il fait « Oui, bonjour, c'est Patrick pour le rendez-vous ». Il change de voix, en fait.
C'est la voix du téléphone, c'est sa voix de secrétaire, tu sais.
Ah ouais, c'est très drôle.
Mais alors, attends, c'est quoi ma voix normale, alors ?
Ah ben, c'est pas celle-là.
D'accord. Mais ah, pourtant, j'essaye d'être naturel. Je rentre dans mon costume de podcasteur. Mais parce que les gens savent pas, mais il faut pas croire, c'est pas si facile que ça d'être podcasteur. Il faut être... sérieux, bien expliquer les choses, animer le débat, faire attention à ce que tout le monde ait du temps de parole. C'est un vrai métier, quoi.
Il faut être marrant. Avec moi, le temps de parole, c'est difficile à gérer.
Il faut avouer. D'ailleurs, un qui n'a pas droit à son temps de parole aujourd'hui, c'est Jérôme, qui n'est pas avec nous, parce que, on a décidé qu'il fallait vraiment qu'il aille chez le médecin. Donc, on lui a dit, ça suffit de faire toutes ces émissions. Maintenant, tu te prends 2 heures pour aller chez le médecin.
Non, mais t'as bien géré le coup de je me trompe dans l'agenda, puis finalement, non, on a réussi à bien les lancer.
C'est vrai.
On enregistre un jour plus tôt, c'était pas prévu et c'est moi qui me suis planté, donc c'est de ma faute. Donc vous pouvez aller sur Twitter et dire à Jérôme, Patrick s'excuse, il est désolé, c'est de sa faute. Voilà. Mais donc, on va parler de tous ces sujets aujourd'hui. Avant ça, je voudrais remercier ceux qui choisissent de soutenir l'émission et qui me permettent de rentrer dans mon costume de podcasteur toutes les semaines, c'est-à-dire Cyril Pradel, vieux débris, qui n'est pas si vieux ni débris que ça, j'en suis sûr, Eric, Thomas Gentil et Pépouze. Ce sont certains des nombreuses personnes qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Et j'évoquais ici et là des changements dans le Patreon. Ça va arriver, j'espère. Je voulais le faire cette semaine, mais ça va arriver, j'espère, la semaine prochaine, parce que en plus des 10 ans d'anniversaire de l'émission, on a 5 ans d'anniversaire de Patreon. Ça fait 5 ans que le Rendez-vous Tech est devenu mon métier. Alors, au lancement du Patreon, c'était pas tout à fait mes seuls revenus, mais c'était le début. Donc,
ouais,
mais
la drogue, faire quelques
petits... Ça fait pas déjà 5 ans.
Mais si. Mais
c'est un truc de dingue.
Mais c'est incroyable, ça veut dire qu'on arrive à un moment où le Patreon, le Rendez-vous Tech a existé plus longtemps avec Patreon qu'avant. C'est dingue, pour moi, la période de où je faisais ça genre YOLO juste pour le fun, c'était hyper hyper long et beaucoup plus long que la période pendant laquelle j'en ai vécu. Mais en fait,
d'accord.
Non, on arrive
ça me surprend, parce que j'ai l'impression que tu faisais ça depuis que 2 ans. Enfin, le Patreon, je veux dire, 2 ans.
Ouais, c'est presque 5 ans.
Ça passe trop vite.
En fait, je l'avais lancé en février 2014 et j'ai vraiment quitté mon boulot j'ai quitté en juillet, mais j'ai mis ma démission en juillet, mais j'ai vraiment quitté en fin septembre.
Ouais.
Donc...
Ça change pas grand-chose, quoi.
C'est... Bah oui, mais c'était quand même... Donc voilà. c'est des séries d'anniversaires et comme le temps passe, il faut avouer qu'il y a une année qui a complètement disparu dans un trou noir, c'est l'année précédente, l'année où mon fils est né. Je me souviens de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, aucune idée. Un autre truc que certains voudraient voir disparaître dans un trou noir, art de la transition, c'est Facebook. Facebook fait encore des siennes. J'imagine que vous avez entendu parler de ce petit scandale qui n'a pas énormément été discuté en France, j'ai l'impression, parce que je crois que peu de gens y comprennent grand-chose. Et avec raison, parce que c'est hyper compliqué. Donc, ce que je vous propose, cette histoire de Facebook Research, une app qui a été installée sans l'accord d'Apple sur des téléphones où Facebook payait des gens pour avoir toutes leurs données privées, c'est hyper compliqué. Je vous propose que j'en explique les détails et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça vous va ?
Vas-y, parce que moi, je n'ai pas tout suivi non plus.
Ok, bon, bah, très bien.
Donc,
super.
Je vais me régaler.
Alors, on va commencer avec le tout début d'abord. Ce que c'est qu'un VPN, en quelques mots, la plupart d'entre vous, les auditeurs, vous le savez, j'en suis sûr, mais certains ne sont pas aussi au fait de la chose technologique. Donc, je voudrais juste rappeler très brièvement, un VPN, c'est un Virtual Private Network. Ça veut dire que ça crée un réseau virtuel privé sur l'Internet. Et c'est une app ou un logiciel que vous avez utilisé qui va chiffrer toutes vos communications, qui va les faire passer de manière chiffrée, donc dans cette sorte de tunnel de réseau privé sur Internet. Ça va dans un tunnel jusqu'à leur serveur à eux. Et à partir de là, vos requêtes, par exemple, si je tape sur mon navigateur google.com, la requête va aller jusqu'à leur serveur à eux. Et de là, ils vont demander à avoir la page google.com, ils vont la re-recevoir chez eux sur leur serveur et ils vont me l'envoyer ensuite à moi de manière totalement chiffrée. Ce qui veut dire que, a priori, l'utilisation d'un VPN vous permet de naviguer en toute sécurité sans que qui que ce soit ne puisse avoir accès à vos données, puisqu'on ne peut pas vraiment faire le lien entre vos requêtes et votre ordinateur, votre adresse IP, ni quoi que ce soit. C'est le fournisseur de VPN qui se charge de vous renvoyer les données. Et donc, toutes les requêtes ont l'air d'être envoyées uniquement vers le fournisseur de ce logiciel VPN. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un VPN en général. Facebook a, depuis quelque temps, joué un petit peu avec les VPN. C'est-à-dire qu'ils ont fourni, il y a quelques années, un VPN qui s'appelait Onavo, qu'ils ont racheté, et qu'ils ont utilisé pour espionner, finalement, avoir accès à toutes vos informations aussi. Parce que le truc qu'on ne dit pas avec le VPN, c'est que personne d'autre n'a accès à ces données, mais l'éditeur de VPN que vous utilisez, bah, lui, il peut, s'il le souhaite, avoir accès à ces données, puisque c'est lui qui les chiffre et les déchiffre. Et donc, Facebook disait, nous, on vous fournit un VPN gratuitement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, si on veut utiliser un VPN, à quel type de VPN on va utiliser. Évidemment, un VPN gratuit, il y a une entourloupe quelque part. Pas une entourloupe, mais un échange de bons procédés quelque part. Un VPN payant, eh ben, ils sont payés par votre argent. Donc, c'est plus simple. On a plus tendance à faire confiance à ce type de société qui se fait payer pour ses services. Et donc, Facebook utilisait des VPN depuis quelques temps. Ils utilisaient donc ce VPN Onavo qu'ils avaient racheté pour vous proposer une solution de sécurité qui effectivement était un petit peu plus sécurisée par rapport à tous les acteurs extérieurs, mais ils l'utilisaient aussi pour savoir quel site web les gens allaient visiter. C'était pas vous spécifiquement, mais avoir des données générales sur l'utilisation du web, l'utilisation des apps. Et d'ailleurs, c'est d'après l'analyse de la plupart des experts, un des outils qui leur a permis de savoir que WhatsApp était extrêmement populaire parce que bah, les gens qui utilisaient ce VPN, on savait quelles apps ils utilisaient. Facebook savait quelles apps ils utilisaient. Ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient énormément WhatsApp, envoyaient plein de messages par WhatsApp. Et donc, ça les a encouragés à aller racheter WhatsApp avant qu'il n'explose trop pour qu'il devienne irrachetable. On se souvient qu'ils l'ont payé, je sais plus, 19 milliards à l'époque. Enfin, c'était une somme de fou. En partie parce que Google était aussi sur le coup. Mais c'était, ils ont repéré, ils ont sniffé le truc avec leur VPN. Le VPN espionnant les pratiques des utilisateurs sous couvert de protéger votre navigation, même si les choses étaient dites, c'est une pratique qui n'a pas beaucoup plu à Apple notamment. Donc Apple a changé les règles de son App Store de manière à ce que le VPN Onavo de Facebook ne soit plus, devienne interdit. Donc Facebook a été obligé de d'arrêter de proposer son VPN puisque l'une des règles qui a été implémentée était que les apps ne devaient collecter des données que pour le fonctionnement qui était nécessaire au fonctionnement de ces apps elles-mêmes. Onavo, donc Facebook VPN, collectait des données qui étaient des données de navigation qui n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de l'app. Donc, il contrevenait aux règles de l'App Store, à ces nouvelles règles de l'App Store, et ils ont dû arrêter de mettre en place ce VPN. Ça, c'était à l'été 2018. On en arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a découvert que... je crois, avec un article de TechCrunch, que Facebook utilise une autre application qui s'appelle Facebook Research, qu'il propose à des gens d'installer et qui fait peu ou prou la même chose, peut-être avec un petit peu plus de clarté et en payant les gens pour l'utilisation de ce logiciel. Alors, c'est aussi un VPN, mais il fait encore plus que juste le VPN parce qu'il demande à ses utilisateurs d'autoriser l'accès root qui est dans un... l'accès racine, en fait. Bon, c'est l'accès root dans les systèmes informatiques en question. C'est l'accès à tout le système. Donc, si vous l'installez sur votre téléphone et que vous donnez à une application l'accès root, ça veut dire que l'application va pouvoir aller voir absolument tout ce que vous faites sur votre téléphone. Donc, Facebook propose aux gens d'installer cette application, demande l'accès root, a accès à absolument tout, et ensuite paye les gens pour l'utilisation de cette application jusqu'à une vingtaine de dollars par mois, et ils l'utilisent pour continuer leur recherche, comme le dit le nom de l'application, pour avoir des informations sur les pratiques des gens. Là où il y a un petit point d'interrogation, c'est qu'ils l'utilisent aussi avec des mineurs qui ont donc à partir de 13 ans. Ils disent que pour l'utilisation en question, ils ont les accords des parents, donc c'est complètement légal, et ils ont accès donc à tout ce qu'il y a sur tous les téléphones de tous ces gens. Le but étant là encore de savoir ce que les gens utilisent, ce que les gens font, etc. C'est de la recherche de tendances et d'utilisation classique. Le gros problème, même si là il y a des questions morales qu'on va évoquer, j'en suis sûr, le gros problème, c'est que pour distribuer cette application, puisqu'elle contrevient aux règles de l'App Store, ils ont utilisé un autre système que celui de distribution de l'App Store, ils ont utilisé un certificat d'entreprise. Alors là encore, j'explique pour ceux qui connaissent pas, un certificat d'entreprise, c'est un certificat que délivre Apple aux entreprises pour leur permettre d'installer des applications à usage interne. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de quelques milliers d'employés, vous n'allez pas mettre une application pour votre cafette pour savoir quel est le menu de la semaine ou pour gérer votre parking ou ce genre de choses. Vous n'allez pas mettre cette application sur l'App Store. Apple vous délivre un certificat qui vous permet d'installer toutes vos applications internes. Mais évidemment, le but est d'installer les applications internes. Et bien, Facebook est passé par ce certificat pour demander aux gens d'installer cette application-là qui s'appelle Facebook Research. Et Facebook dit « Ah ben non, on ne contrevient pas aux règles de l'App Store, on se demande bien comment, parce que je crois qu'il est difficile d'imaginer un détournement des règles de ce certificat d'entreprise plus clair. C'est clairement, ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas. » Donc, suite à l'article de TechCrunch, Apple s'en est rendu compte, ils ont haussé le ton, ils ont invalidé le certificat d'entreprise qu'ils avaient délivré à Facebook, ce qui fait que toutes les apps internes de Facebook, y compris Facebook Research, a cessé de fonctionner immédiatement. C'est pas juste pour l'installation, c'est aussi pour l'utilisation de l'app que le certificat est nécessaire. Et donc, il y a eu des négociations entre Facebook et Apple. Et au bout de quelques jours, Apple a rétabli le certificat, étant clair que Facebook ne peut plus l'utiliser pour ce type d'utilisation. Voilà en gros les faits, sans trop de jugement moral. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire ? Je me retourne peut-être vers Cédric d'abord pour qu'il nous dise ce que ça t'évoque, tout ça.
Bah, écoute, comment dire ? Non, non, mais si tu veux, en fait, Facebook a le droit de faire ce qu'il veut. S'ils ont envie de donner un petit peu d'argent à des teenagers, un peu d'argent de poche à des teenagers pour les espionner, entre guillemets, enfin, c'est même plus qu'entre guillemets, c'est plutôt pour avoir accès à tous les contenus partagés via Internet, les applications utilisées, enfin, bref, tout l'usage du smartphone ou quasiment des ados. Bon,
oui, ça allait loin, il faut préciser, ils demandaient même aux personnes
qui utilisaient... Ah, ils
demandaient
même de faire des captures d'écran, des listes de shopping Amazon et tout ça, enfin, ça va très très loin,
ouais.
Ça va très très loin. Après, si les gens sont prêts à accepter pour $17...
C'est 17 euros, donc 20 dollars.
Ouais, 17 euros, ouais. Pour 20 dollars de donner tous ces accès-là à Facebook, bon, grand bien leur fasse. Enfin, je veux dire, on leur ment pas, ils sont au courant, parce que Facebook dit vous avez bien compris, machin. Ou alors, c'est comme d'hab, on lit pas les termes d'utilisation du service, ça fait 50 000 pages, et à la fin, on te dit juste bon, et 20 euros, t'installes ce truc-là, on va juste regarder sur quoi tu surfes. Si on leur a menti, ça, c'est pas bien. Par contre, si les mecs l'ont fait en leur âme et conscience, bon, là, on peut rien leur dire. Après, que Facebook ait cette pratique qui, moi, je trouve pas très éthique, hein. Mais pourquoi pas, après ça peut être, c'est vu comme une appli de recherche et de test, hein. Donc c'est
ouais,
comme quand on participe à un panel, c'est comme quand on participe à un panel, un sondage ou un truc comme ça, on nous demande nos opinions politiques, nos machins, nos trucs, on accepte ou pas d'y répondre. C'est
ouais,
à peu près le même principe.
Mais tu soulèves une question qui est vraiment, et sur laquelle qui mérite qu'on s'y attarde. C'est vraiment cette question de est-ce que si les gens sont prêts à le faire en connaissance de cause, et je pense que d'une manière générale, les gens le faisaient plus ou moins en connaissance de cause, ouais. Est-ce qu'il y a quand même une question morale qui voudrait que on n'ait pas le droit de le faire malgré tout, Corben?
Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça.
Mais c'est pour ça que je pose la question à Corben aussi, pour avoir un autre avis peut-être. Parce que est-ce que c'est pas le deal du diable, quoi? Tu dis ouais, bon, c'est pas trop grave, tu fais ce que tu veux, mais est-ce que les gens ne devraient pas, est-ce que les gens sont équipés pour savoir vraiment ce que
ça
veut
est-ce
dire?
Il faut légiférer. Ah,
c'est ça. Sur ce cas particulier, je sais pas exactement comment ont été présentés les CGU. Peut-être que les mecs se sont dit bon bah je clique ici, j'accepte tout sans lire et j'aurai 17$, tu vois, enfin 20$. Mais
je pense
après,
qu'il y a des gens
sent,
qui
c'est...
se. Mais le truc, pardon,
le
je t'interromps encore.
On le fait tous les jours.
Enfin, Zoé, je t'interromps encore parce que je pense que la plupart des gens comprennent qu'ils vont donner leurs données privées à un acteur commercial. Ça, ils le comprennent, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas les conséquences ensuite de ce type de pratique. Qu'est-ce que l'acteur en question va pouvoir faire avec ? Est-ce que c'est sociétalement moral de donner autant de pouvoir à une entité, et en particulier une entité commerciale ? Mais le problème serait le même peut-être avec une entité gouvernementale. Tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué d'y répondre moralement, parce que même s'ils comprennent, s'ils ont lu toutes les CGU qui sont super longues, et s'ils comprennent ce que ça veut dire d'utiliser l'application, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière et ce qui vient après.
Non, ils ne peuvent pas comprendre. Quand tu vois comment
même
Facebook
nous, on comprend
a été,
à peine, quoi.
Ouais, enfin, puis Facebook a quand même, je pense, des techniques qu'on ne connaît pas encore pour récupérer de la data par tous les moyens. Et ils sont tellement malins là-dedans. Enfin, c'est leur métier. Donc, là, ils ont proposé ça. Enfin, je pense qu'ils ont proposé ça parce que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas obtenir de manière naturelle. Mais on donne déjà de manière directe ou indirecte toutes nos datas, enfin tout ce qu'ils peuvent récupérer, ils le récupèrent quelque part. Donc,
Là où ça leur était très utile, c'est qu'ils voyaient quelles apps étaient utilisées, je pense, ouais. et Google, qui faisait la même chose, entre parenthèses, faisait exactement la même chose et a fait marche arrière directe quand ils ont vu le scandale arriver avec Facebook, Google a l'avantage d'avoir un navigateur Chrome qui leur permet d'avoir beaucoup plus de données sur ces sujets que Facebook, mais qui n'a pas de navigateur. Donc, ça leur permet d'avoir ce type de données.
Si tu prends, par exemple, Uber qui détecte si tu as d'autres concurrents installés sur ton ordi, enfin, sur ton téléphone pour savoir s'il te met la pression ou pas, s'il t'augmente les tarifs et compagnie, ou il te baisse les tarifs, ça aussi, enfin, ouais. C'est un peu de l'espionnage. Donc, de toute façon, enfin, c'est tout ça, c'est de la guerre de la data, mais Après, que ça se fasse sur des gamins, bon, si, je sais pas comment ça s'est fait. Peut-être qu'ils avaient vraiment les autorisations parentales. Peut-être que c'est juste des gamins qui sont passés le lien, ils ont cliqué, ils ont coché la case en disant.
Ouais, tiens, t'as $20 par mois.
Ouais, je suis le papa, je donne mon accord, ils mettent le nom de leur père, ils signent et c'est bon, quoi. Mais donc, je pense que c'est surtout pour ça que ça a buzzé, parce que c'était sur les gosses. Mais il n'y avait pas non plus, j'ai vu, là, il n'y avait que 5% de. D'ados ou
d'après Facebook, ouais, ouais. 5% de mineurs d'après Facebook.
Moi, ce que je trouvais intéressant au-delà de ça, c'est cette espèce de. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet de fond, hein, mais cette espèce d'interconnexion et de dépendance entre les GAFA, en fait, entre les gros acteurs. Tu vois, d'un côté, tu as l'App Store de Google et puis l'App Store d'Apple. Qu'il faut un peu bidouiller, détourner pour pouvoir faire passer ce genre d'appli. Google fait du chantage ou Apple fait du chantage à Facebook et enfin tout le monde se tire dans les pattes un peu et négocie, etc. Et c'est assez marrant de voir comment par exemple Apple peut imposer à Facebook une certaine éthique entre guillemets sur ses applis juste en suspendant un certificat et puis qu'après les mecs renégocient avec des avocats. Enfin ils sont tous un peu ils se tiennent tous un peu par les couilles quelque part.
Et là ça a été très vite
mais c'est assez rigolo de voir ça en fait, de se dire que finalement la morale, on va dire la morale, l'éthique que Facebook a, enfin en tout cas la loi qui s'applique à Facebook, c'est plutôt les règles d'utilisation de l'App Store d'Apple dans ce cas-là. Mmh. Et après on peut discuter sur est-ce que Apple est éthique, est-ce que Google est éthique, est-ce que Facebook est éthique, mais en fait personne n'est éthique là-dedans, ils font tous leur petite magouille, mais quand il y en a un qui se fait choper, les autres s'offusquent, je vois un peu les chevaliers blancs là et disent attention, t'as pas respecté mes CGU, on va te taper sur les doigts, etc. Donc c'est ils s'autopolissent, enfin tu vois, ils s'autofliquent tous, quoi. C'est assez marrant.
Je pense que là c'est hyper intéressant que Apple, moi je dirais que c'est la bonne décision qu'a pris Apple, mais ce qui est aussi intéressant c'est que Facebook est tellement important que ils ont pas pu juste dire bon bah Facebook au revoir, parce que ce qu'on n'a pas, j'imagine que c'est ce que tu allais dire Cédric, mais le scandale d'utilisation du certificat d'entreprise pour distribuer une app au public, mais c'est si on parle de rapport entre les entreprises, mais c'est une gifle dans la gueule qui est hyper violente. Ouais. C'est honteux comme pratique. Au-delà de la question morale même, qui est à débattre et qui est peut-être... en fait, ce qui est compliqué avec la question morale, c'est que tout ce qui s'applique avec cette question sur le Facebook Research en question, ça s'appliquerait aussi à Facebook tout court, sauf que là, on ne paye pas 20 euros. Donc,
ouais, c'est ça.
Bon, on a souvent ce débat.
Et à Google, et voilà. Enfin,
et à tout le monde. Et, ouais. Ouais, tout le monde. Et on a souvent ce débat, mais... La question de l'utilisation du certificat, enfin Cédric, toi qui es un programmeur, tu confirmes,
oui, mais en fait,
si toi tu faisais ça avec Apple, je pense que ça serait même pas bon,
terminé,
on referme deux minutes.
C'est au revoir et à jamais. Et en fait, nous, on a un certificat d'entreprise puisque on a des boîtes, hein, qui ne veulent pas distribuer leurs applications sur l'App Store parce que pour des raisons aussi de confidentialité et puis parce qu'on s'en fout d'avoir sur l'App Store. Je sais pas moi, l'application pour le congrès des maçons de France, quoi, tu vois, qui est vraiment une appli que eux seuls vont utiliser et personne d'autre. Donc ce que je et voilà.
Ah, le congrès des francs-maçons, c'est ça que
non, des maçons, non, des maçons de okay. France. Moi je dis maçon parce que j'ai un maçon juste en face de moi par la fenêtre qui est en train de réparer, qui est en train de construire un immeuble là. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais il y a vraiment cette idée de détourner l'utilisation première, et surtout, il y a une espèce d'abus de confiance de la part de Facebook vis-à-vis d'Apple, en disant, Apple dit, nous, on vous donne ces certificats, on va pas contrôler les applis, parce qu'ils contrôlent pas les applis, ils peuvent pas. La distribution avec un certificat externe, c'est complètement, c'est hors store, donc il y a pas de soumission à la validation. Mais en gros, on vous donne un laisser-passer.
Facebook est une société tellement grande et ils ont plusieurs applications internes. Du coup, ça se noie. Ils auraient pu savoir il y a tant d'appels à la.
Exactement. Ouais. Et nous, tu vois, on a 4 ou 5 applications qu'on publie comme ça hors store. Évidemment que tu pourrais faire n'importe quoi à ces applis. Mais déjà, il y a tout un tas de garde-fous parce que quand tu acceptes un certificat, tu donnes pas tous les accès au certificat. Enfin, il y a tout un tas de manipulations à faire pour l'utilisateur. C'est pas très évident non plus. Donc nous, c'est pas la meilleure façon dont on aime propager les applications, mais dans l'idée, t'es quand même libre de faire ce que tu veux sur l'appareil, ou presque. Donc en gros, Apple te fait confiance en disant, on vous donne un certificat de distribution que tu payes, hein, quand même, faut dire ce qui est, tu le payes, pas très cher, mais tu le payes. Et Au-delà de ça, ben vous pouvez publier hors store. Et là, en gros, Facebook, et évidemment, c'est fait que pour des applications à usage interne aux entreprises. Tu vois, l'exemple
oui,
de la
cafette,
voilà, ou le service de bus du campus, ou je ne sais quoi, c'est tout à fait légit. Ou même, ils ont d'ailleurs ce type de certificat aussi pour des universités, tu vois, qui utilisent des systèmes internes, je ne sais pas moi, de réservation de livres ou ce genre de trucs. Bref. L'idée, c'est que derrière tout ça, quand même, Facebook a violé, ouais, clairement, les conditions générales d'utilisation de ces certificats-là. Et ça, c'est la filouterie que Apple a pas supportée. Et quand ils se sont rendus compte que Google avait finalement fait la même chose, ben, ils se sont dit, attendez, on nous prend pour des cons, en fait. C'est, tu vois, c'est un peu ça la démarche. Et bloquer le certificat, ils savaient très bien quelles allaient être les conséquences. Hein. C'est l'élimination, enfin, les applications, quand le certificat est révoqué. Sur le téléphone, d'ailleurs, c'est écrit, l'appli ne se lance plus. Mmh. Donc, ils ont bloqué la cafette de chez Google et ce genre de trucs. Quoi.
Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, oui, et je pense que oui, pour faire réagir les gens de Facebook, je crois que bloquer leur accès à la cafette, c'est le meilleur moyen, mais c'est intéressant aussi. Je ne sais plus qui disait ça. Je suis désolé, je vais plus retrouver l'article en question. C'est ça. C'est GetReview qui a publié un article de Casey Newton qui disait c'est une histoire à côté de tout ça. C'est aussi le fait que Apple a un pouvoir immense sur notre vie de tous les jours, en dehors même des apps. C'est-à-dire que même les applications qu'on gère nous-mêmes dans une entreprise, un jour ils appuient sur off et plus rien ne marche. Donc c'est pas la peine de débattre deux heures sur ce sujet aussi, mais c'est intéressant de voir à quel point c'est...
Oui, parce que tu vois, par exemple, dans les apps d'entreprise, voilà, tu pourrais très bien imaginer que, je sais pas, tu as une application qui traque les employés en temps réel sur leur lieu de travail. Je sais pas si ça remplit les CGU d'Apple, est-ce que... Tu vois, je sais pas. Mmh. Ou qui traque tout ce qui se passe sur le mobile.
Les règles sont beaucoup moins...
Là, le fait que ce soit diffusé le fait que ce soit diffusé au public, c'est ça en fait le vrai problème. Mmh. C'est que on a dépassé les cases de, enfin le cadre des CGU quoi.
Ouais.
Bon. Donc voilà, je ne sais pas si on a réussi à trouver un avis très clair sur
ces
Apple, questions.
Pour
mais
moi, juste un dernier truc, ouais. Apple n'a pas finalement banni l'app parce qu'elle faisait quelque chose qu'elle considérait comme non éthique ou immoral, bien qu'il s'élève en chevalier blanc de la vie privée, tu vois.
Oh,
mais
si,
pas, je pense pas que ce soit que pour ça. Je pense qu'il y a vraiment l'idée que ça a été distribué. La seule force légale, l'avocat de Facebook dit « Attendez, mais en quel honneur vous m'enlevez cette application ?» Je sais pas, surtout si les utilisateurs acceptent les CGU et tout ça, je sais pas si elle est complètement illégale l'appli. Par contre, c'est l'utilisation du certificat qui l'est, et donc là, ils ont juste rien à dire, quoi.
Bien sûr, mais en toute honnêteté, Apple se défend avec ça. Non, mais Apple a aussi changé les règles de l'App Store pour faire en sorte que l'équivalent dont on parlait tout à l'heure, le fameux VPN Onovo, puisse plus être utilisé cet été. Donc, ils ont clairement, tu vois, c'est pas juste, vous avez utilisé notre certificat.
Oui.
C'est Facebook qui allait faire cette filouterie, comme tu dis. Et c'est peut-être la filouterie de trop, parce que c'est marrant, il y avait des rapports de l'Union européenne des rapports de l'Union européenne disant que Facebook ne fait pas assez, pas que, mais Facebook et d'autres ne font pas assez pour combattre la désinformation. Il y a eu des informations selon lesquelles Facebook, des outils, des organismes de certification de vraies news et de fake news comme Snopes et l'Associated Press ne veulent plus travailler avec Facebook pour le moment parce qu'ils disent mais ils y vont pas pour de vrai. Il y a plein de problèmes comme ça supplémentaires. Comment dire ? Moi, j'ai tendance à laisser aux gens le bénéfice du doute et dire bon, il y a eu un problème, vous dites que vous allez essayer de le résoudre. Voyons ce qui va se passer. Là, j'ai l'impression qu'on est, disons, 2-3 ans après la première vraie levée de bouclier ou les problèmes qui ont été posés avec la plateforme de Zuckerberg. Et on continue à avoir systématiquement des preuves qu'ils n'y vont pas sincèrement, quoi. Donc, moi, je me demande si là, on n'est pas dans cette période. C'est pas un seul scandale, mais une série de problèmes qui font que... ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'utiliser Facebook, mais c'est juste que l'opinion par rapport à Facebook est vraiment, même pour les gens qui laissaient le bénéfice du doute, c'est genre, Bon, bah, vous y faites pas de vrais efforts. Vous êtes complètement. Ah, c'est des filous, quoi.
Quelque part, ça traduit aussi une espèce de mentalité dans la boîte, d'entreprise. On prend tous les moyens qu'on peut, même les plus borderline, pour obtenir tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est vraiment. C'est de l'espionnage à grande échelle, quoi. Enfin, là, on en est là, quoi. Donc. J'ai vu des tas de trucs là-dessus, mais sur des, tu sais, même quand, de toute façon, qu'on comprenne des trucs qu'on connaît, genre t'es avec un ami machin, et puis tes téléphones sont dans la même zone, donc on t'associe un peu avec lui, etc. Et après on peut te tracer et le tracer lui et savoir quand vous voyez, etc. Ou alors tu vas sur un site sur lequel il y a des embeds, des embeds de Facebook, le bouton avec le machin, on traque aussi ta navigation. Enfin, en fait, tous les moyens sont bons et je pense que il y a des boîtes comme ça où, tu vois, par exemple, tu vois, tu peux prendre Volkswagen avec le scandale du diesel et compagnie. J'avais vu un reportage sur Netflix, ils expliquaient clairement au reportage qu'en fait, à un moment, c'est un peu toute la boîte. Enfin, c'est les gens qui sont au courant, sont au courant de l'arnaque et participent à ça et ils sont tous complices, quoi, quelque part. Et c'est une mentalité entreprise. Limite, ils voient même plus le mal, en fait, derrière, tu vois, parce que c'est dans la boîte, c'est dans l'esprit, c'est comme ça. Et je pense que Facebook, ils ont le même problème. C'est-à-dire, tous les moyens sont bons pour récolter de la data et en faire après, ce qu'ils ont à en faire, mais ils voient même pas le problème, je pense.
Disons qu'il y a beaucoup de gens qui disaient Zuckerberg n'est pas sincère quand il dit qu'il veut essayer de résoudre les problèmes. Il continue à poser les mêmes problèmes et puis il continue à s'excuser et à refaire la même chose. Je commence à me dire effectivement que c'est un problème systémique. Il y a un manque de sincérité. C'est des filous professionnels, quoi, pour reprendre
c'est
l'expression.
C'est dans la culture de la boîte. C'est l'ADN de la boîte.
Ah oui, entre parenthèses, c'est pas prêt de disparaître parce que Instagram a maintenant 500 millions d'utilisateurs quotidiens sur leurs stories, alors que ils dépassent de très très loin Snapchat qui a inventé les stories, et il y a des plans selon lesquels ils seraient en train de mettre en place une unification de tout leur système de messagerie, donc WhatsApp, Messenger, enfin Facebook Messenger, Instagram, etc. Alors Zuckerberg dit c'est genre en 2020 ou plus tard, mais le gros problème que ça poserait, c'est que l'un des outils que les gouvernements peuvent avoir pour diminuer l'influence et la néfastité de Facebook, c'est de séparer les sociétés. On pourrait dire, on casse Facebook, il y a d'un côté Instagram, d'un côté Facebook, d'un côté WhatsApp, on casse la structure de la corporation et pour éviter les questions de monopole. Mais si ils intègrent tout leur système de messagerie, c'est le bordel parce qu'ils vont dire « Ah mais non, on ne peut plus séparer les trucs, on ne peut pas. » C'est comme l'avait fait Microsoft à l'époque de Windows et quand il fallait supprimer Internet Explorer, etc. etc. Bref, bon, il sera temps d'en reparler à un moment. Quelqu'un veut ajouter quelque chose en conclusion ?
Bon non, écoute, c'est bien.
Ok. Bon, donc on peut parler…
Vive Facebook.
Ouais, c'est vraiment… Moi vraiment… Encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai tendance à être plutôt positif, mais c'est pas juste aujourd'hui, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a ma vision de Facebook qui a évolué. Au-delà des problèmes structurels que pose un service comme le leur, parce que c'est comme ça qu'il est construit et qu'ils ne se rendaient pas compte, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise volonté qui est critiquable. Et donc, mon image de cette société et de ses dirigeants est en train de shifter un peu. Donc voilà, ça c'est mon avis. Mais ouais. On a eu beaucoup de résultats financiers, bien sûr, comme toujours, pour le quatrième trimestre de l'année dernière. On va en tirer quelques chiffres intéressants. On va pas vous imposer tous les chiffres inintéressants dont on a pu être abreuvé. On a été sélectionné les bons. On va parler juste d'Amazon et d'Apple. Sur Amazon, le plus intéressant, je pense, leur service leur revenu autre qui inclut essentiellement leur service de publicité a atteint plus de 3 milliards de dollars, mais le plus intéressant, c'est qu'ils ont eu une croissance de 95% d'une année sur l'autre. Alors, on parle du quatrième trimestre, mais 95% d'une année sur l'autre. Amazon, ça représente, pour eux, la pub commence à représenter pas mal d'argent, mais si vous pensez que ça représente le plus d'argent de la boîte, détrompez-vous, puisque si je vous demande Amazon, quel est leur plus gros revenu
AWS.
Et ben voilà, c'est AWS qui a aussi, là aussi, a eu une croissance de 45% d'une année sur l'autre. Alors AWS, c'est, vous savez, il y a Amazon Web Services, c'est en gros leur service cloud, tout leur service cloud qu'ils louent à des sociétés tierces. Un jour, il y a un type chez Amazon, il y a quelques années, qui est allé voir Jeff Bezos et qui lui a dit, tu sais, tous les serveurs qu'on a là, on s'en sert pas trop pendant la nuit, on pourrait en faire quelque chose. Bezos qui dit, ok banco, bon ces trucs ça sert à rien, on va faire quelques dollars dessus. Aujourd'hui ça représente 60% de leurs revenus, 60%, et croissance 45% d'une année sur l'autre. Quand on entend de nombreuses sociétés dont notamment Microsoft qui disent on veut être l'infrastructure du web et on veut être peut-être dans le background mais servir aux sociétés qui font du business sur Internet et devenir leur infrastructure, c'est de ça qu'on parle. Et si on se disait bah AWS ça y est c'est établi, ça bouge plus tellement, détrompez-vous, 45% de croissance, mais rendez-vous compte, et ça va continuer. Donc
ils sortent des nouveaux services tout le temps, enfin il y a plein de trucs.
Ouais. Donc voilà, ça c'était pour Amazon. Sur Apple, bah, finalement, les revenus ne sont pas si mauvais que ça. Ils ont bien réussi leur coup en faisant courir des rumeurs selon lesquelles ça allait pas très très bien, machin. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais j'exagère à peine. Le truc qui est intéressant, à mon sens, c'est la croissance de leur catégorie produits, autres produits et services, qui est donc concentré sur les services. Les revenus d'iPhone ont chuté de 15%, donc c'est pas rien, mais les revenus et services ont eu une croissance de presque 20%. Surtout, ils ont atteint 10 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, 10 milliards, alors que les iPhones, ça représente environ 50 milliards. Donc, autres produits et services, qui incluent plein de choses...
C'est pas rien.
Bah, voilà, c'est un cinquième de l'iPhone qui est l'énorme majorité des revenus d'Apple pour le trimestre. Hein. Mais donc, 10 milliards, c'est quand même pas rien du tout. Et puis, on entend bien sûr parler partout des différents services qu'ils vont lancer. Il semblerait qu'ils lancent leur service de streaming vidéo mi-avril, selon les dernières rumeurs. Il y aurait un service d'abonnement à des magazines qui viendraient avec. Ils ont racheté, je sais plus comment s'appelait cette app, qui était une app d'abonnement à des magazines... Je me souviens plus, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais... Et il semblerait qu'ils aient un service d'abonnement aux jeux vidéo qui soit en négociation et un nouvel iPod qui arrive bientôt concentré sur le gaming, ce qui n'est pas si bête que ça. Donc,
une
quand
Switch
on entend...
de chez Apple, quoi.
C'est un peu ça, ouais. Donc, quand on entend les rumeurs selon lesquelles Apple se concentre sur les services... ça semble être... enfin, se confirmer.
Voilà, c'est logique, c'est logique. Quand tu arrives sur un marché où... t'es bien établi, qui est quasiment à saturation, et tu vends plus de produits, et t'as une base d'utilisateurs installée de milliards d'utilisateurs. Je pense que maintenant, il faut essayer de, au lieu de chasser, il faut maintenant élever le bétail et exploiter le bétail, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Mmh. C'est au lieu de remplir ton parc d'utilisateurs, bah maintenant, il va falloir les tondre, quoi. Donc,
c'est vrai.
C'est bien. Et ce qui est marrant, c'est que même quand tu les fais rentrer dans le parc, contrairement aux autres sociétés, tu les tombes parce que tu fais des bénéfices énormes quand
ils
achètent leur téléphone.
Puis ça pousse, puis tu retombes.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Donc, clairement, c'est ça. Mais c'est une période, comme je disais, qui est ultra intéressante, cette période où le marché arrive à saturation et tout ça. Et on le voit, il y a des synergies, des accords qu'on n'aurait jamais imaginés. Avec iTunes sur les télés Samsung, AirPlay dans des télés de Samsung justement ou d'autres concurrents, c'est que on a un moment où sur le matos on se renouvelle pas trop, tout le monde est équipé et puis on n'est plus dans l'optique de changer maintenant tous les ans. Ben il va falloir trouver un moyen de faire de l'argent. Alors on commence à signer avec les copains pour toucher plus de clients pour les services et ainsi de suite. Quand on voit Apple Music sur les Amazon Echo, what the fuck? Non mais sérieusement, et c'est ça, et c'est on est dans cette phase de, c'est pas vraiment de l'ouverture, hein, faut pas voir ça comme de l'ouverture, mais plutôt d'accord, d'échange de bons procédés pour essayer d'aller chercher les clients sur le service, quoi. Et il faut être le plus interopérable possible, et présent partout le plus possible. Donc c'est la bonne période, ça. C'est peut-être une période de crise. C'est arrivé par le passé déjà, ça.
Il y avait un article, je crois que c'est John Gruber qui l'a écrit, qui estime, c'est un grand connaisseur de la chose Apple, qui estime que les appareils comme les AirPods ou les leur ancêtre qui sert à rien là, HomePod, merci, serait vendu à prix coûtant. Ce qui est assez invraisemblable pour Apple, qui fait toujours...
AirPod, un doute, mais HomePod, possible, oui.
Et du coup, si c'est le cas, ça expliquerait... Enfin, c'est un outil énorme pour Apple pour garder les gens dans leur zone d'élevage pour pouvoir les tondre ensuite. Ouais. Ça me paraît très crédible.
Mais c'est pour ça que tu vois, les Echo Dots sont souvent bradés par Amazon et tout ça, parce que
bien sûr,
ils les vendent certainement à perte même.
Bah, mais disons que pour
l'intérêt
des sociétés...
derrière ça, c'est que tu vas utiliser leur service et tu vas consommer leur service, tu vas être abonné Prime. Enfin, voilà.
Ouais. Mais pour des sociétés comme des sociétés comme Amazon ou Google, on a l'habitude. C'est pour une société comme Apple que c'est un peu plus surprenant.
Ouais, c'est pour ça qu'ils le font, tu vois, un peu en se pinçant le nez. Ça fait un peu ça, tu vois. Les produits restent quand même pas bon marché, mais ça fait un peu ça, tu vois.
Ouais, tiens, ouais. D'ailleurs, en parlant de se pincer le nez, on a eu le scandale du bug FaceTime qui permettait d'espionner les gens, qui vaut peut-être le coup de l'expliquer un petit peu aussi. C'était un bug qui permettait aux utilisateurs, si vous appeliez quelqu'un par FaceTime et puis que vous vous ajoutiez vous-même dans la conversation, vous pouviez écouter ce qui se passait sur le téléphone, donc le micro, sans que la personne ait décroché. C'est-à-dire que le téléphone sonne, personne ne répond.
Alors la webcam,
personne...
c'est différent. Ouais. Il y avait un autre truc.
Il y avait un autre truc pour utiliser la webcam aussi. Donc
quand
sans
t'avais
que la
webcam,
personne...
t'avais plus le son. Donc c'est au choix, quoi.
D'accord.
Mais donc, le téléphone sonne, vous ne répondez pas, vous faites rien, et ben ça active le micro. Et évidemment, c'est le cauchemar le plus absolu pour les défenseurs de la vie privée. C'est effectivement, c'est juste... Bon, le téléphone sonne quand même, donc il y a un petit signal qui a peut-être un truc bizarre. Et puis, tout à coup, tout ce que vous dites est entendu par la personne à l'autre bout du fil.
Non, pas Patrick, putain.
Pardon ? Pas Patrick, oui, c'est ça.
Quand tu m'appelles, quand tu m'appelles en FaceTime. Oh non, putain, pas Patrick.
Comment ?
Et là, il a tout entendu.
Cédric est encore en train de regarder la saison 1 de Buffy. Mais que se passe-t-il ? Et alors, ça a fait beaucoup de bruit, évidemment. Avant de dire ce que j'en pense, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire ? Je me retourne encore vers Corben, puisqu'il est un spécialiste de la sécurité informatique.
Écoute, moi, ça m'a amusé, entre guillemets, parce que c'était... Enfin, c'est pas resté très longtemps, je pense, possible, parce que... qu'est-ce que je dis ? Oui,
Apple.
Apple a tout de suite dégradé son service pour les communications de groupe, donc ça a été suspendu très rapidement, donc c'était pas très méchant, il n'y a pas eu de soucis, je pense. Mais bon, c'était rigolo, c'est un bug, c'est une faille, après voilà, ils auraient dû la rémunérer, je pense, au gamin qui l'a trouvé. mais sinon c'est tout, enfin je veux dire, des trucs comme ça il y en a tous les jours, hein. Enfin c'est pas exceptionnel, c'est à corriger et puis basta, hein. Non, ça se trouve il y a la même chose sur Skype, hein. On sait pas.
Non, en fait, il y a quand même un mini scandale avec la façon dont le bug est remonté, parce que la femme, enfin la mère du gamin qui a découvert le truc, et elle même avocate, et en gros avait contacté Apple, il avait dit, oh, mais il faut passer par la plateforme développeur pour faire remonter le bug, machin, et elle a dit, oula, mais c'est trop compliqué votre truc, et en
elle
gros, ils ont pas réussi à le faire.
Fox News,
non
ouais.
Ouais, voilà, ils ont rendu public la faille, du coup, en disant, bon, écoutez, vous me faites chier avec vos bugs, machin, en gros, on va publier ça sur YouTube, hein. C'est un peu ça, quoi.
Bah, elle a fait une remontée un peu
et
sale.
Et là, bizarrement,
mais...
ils ont dit, hop, 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 bougez pas, on va s'occuper de ça.
Disons que je suis d'accord, c'est à mentionner, le truc, c'est que c'était une utilisatrice lambda, c'est-à-dire qu'elle a appelé le service client, tu vois, et elle a dit, oh, il y a un super bug, machin. Oui, il aurait fallu que ça puisse remonter, et d'ailleurs, ils ont dit dans leur communiqué, on va améliorer nos méthodes, nos procédures pour que ça puisse remonter. Mais je comprends aussi que si tu es un Apple Genius et puis tu entends ça, tu dis, oui, enfin, madame, vous êtes gentille, vous avez un problème, donc avec Touch ID, c'est ça, de quoi vous, tu sais, c'est pas du tout ton boulot. Là où, comme tu le disais, Corben, ils ont bien réagi, c'est que quand c'est vraiment, ils se sont rendus compte, et ben tout de suite, en 4 heures, c'était réglé, ils ont désactivé le FaceTime de groupe le temps que la correction logicielle soit envoyée à tous les appareils. Ça va arriver normalement cette semaine. Ils se sont excusés auprès de la mère, justement, qui avait essayé de leur faire remonter. Enfin, ils ont vraiment bien géré le truc. Et ils sont allés tellement vite que 3 heures après que la faille ait été, enfin, le scandale soit vraiment sorti, eh ben déjà le truc était plus possible et il y avait encore des articles qui étaient publiés disant « Ah, regardez, on peut espionner les trucs sur les appareils Apple ». Alors évidemment, Apple se targue tellement de protéger votre vie privée que ça fait une cible, voilà, ça fait une cible compréhensible. Mais du coup, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont bien réagi. Ils ont tout de suite fermé le truc. Donc oui, il y a des bugs tout le temps, on en trouve partout. Et Dieu sait qu'il y a des sociétés qui mettent plus longtemps que ça à les corriger.
Ah oui, oui.
Donc,
oui.
Bon, donc voilà.
Ah, mais si vous trouvez une faille dans les produits Apple, il faut savoir qu'Apple a son programme de bug bounty. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est que là, c'était quelqu'un qui n'était pas formé ni au courant des bonnes pratiques. Mm. Mais normalement, quand on trouve une faille comme ça, il y a des moyens de les remonter de manière propre, entre guillemets, pour pas justement que ça fasse du bad buzz pour la société et en même temps de toucher une récompense, voilà. Et c'est ce qu'elle aurait pu faire, en fait, c'est juste qu'elle a pas pris les moyens de le faire. Elle a peut-être vendu le truc à je sais pas quelle chaîne de télé, mais voilà, elle aurait pu se faire peut-être 10 000 $ ou quelque chose, ou un peu plus, en passant par le programme de bug bounty d'Apple, quoi.
Et ben justement, on va en parler un petit peu des problèmes de bug bounty, mais avant ça, j'aimerais lire ce commentaire de Jérémy qui dit sur iTunes: merci Patrick, je ne m'en rendais plus forcément compte, mais quelle chance j'ai eu d'avoir découvert le podcast il y a plusieurs années. Je prends toujours autant de plaisir à t'écouter, ainsi que tes co-animateurs de Haute Voltige. Alors, je ne sais pas lesquels sont de Haute Voltige ou pas, hein. J'imagine Cédric et Corben, bien sûr. Dans des analyses passionnantes et passionnées, quelle chance j'ai et quelle somme modique pour cette qualité de ton podcast toujours livré en temps. Comment ça, je devrais augmenter ma contribution? Ok, je vais aller sur Patreon. Oh, merci Jérémy, c'est très gentil.
Ouais, voilà, toutes somme les modique, ça, c'est laissé à ta libre appréciation.
C'est
hein,
ça,
évidemment.
Exactement.
Elle peut être beaucoup moins modique si tu montes par exemple à 1 000 $ par mois.
Et vu toutes les datas que tu collectes sur tes abonnés, Patrick, je pense que c'est
ah
bon.
Ah, oui, ouais, voilà. Carrément, vous vous rendez pas compte. Moi,
je devrais revendre toutes les données de ton Patreon à Facebook. Hein.
Le Patreon a pas énormément de données. Moi, je sais combien d'auditeurs écoutent à peu près l'émission. C'est fou, hein. Mais c'est vrai que c'est grâce au Patreon que j'ai pas besoin de faire de la pub ou ce genre de truc, ça compte aussi. Il dit: bref, merci Patrick. PS, très sournois cet iTunes qui m'affiche le commentaire de Guillaume Vendée, notre ami Guillaume Vendée, qui participe parfois à l'émission, d'il y a 9 ans, qui dit, alors c'est il y a 9 ans, hein, un an après la création de l'émission, podcast très prometteur, encore quelques améliorations et bientôt 5 étoiles. Du coup, tu as peut-être ton seul 5 étoiles iTunes qui remonte en preview. Alors je sais pas, Guillaume, si tu trouves que maintenant, après 9 ans d'efforts, on mérite le 5 étoiles ou pas. Là encore, c'est à ta libre appréciation, mais merci à Jérémy pour m'avoir mentionné ce petit message, ça m'a fait plaisir. Voilà, vous le savez, hein, le Patreon, c'est ce qui nous aide à, c'est ce qui me permet de faire l'émission. Si vous voulez donner le prix d'un petit café par épisode, ou d'un petit latte frappuccino avec du caramel,
ou d'un caviar,
d'une
petite boîte de caviar,
voilà, avec des trucs.
N'hésitez
avec des
pas.
Truffes, vous pouvez. Hein.
Vous savez où ça se passe, c'est sur patreon.com/rdvtech. Et entre parenthèses, comme je le disais, il y a des petites modifications qui vont arriver. Je faisais des références à la communauté, à la qualité de la communauté ces derniers temps. On a discuté avec certains des membres du Patreon des changements à venir. J'en ai proposé certains, ils m'ont donné des idées. Il y a des trucs assez cool qui vont arriver d'ici, on va dire, une petite semaine, une sorte de Patreon 2.0 pour les 5 ans. Je pense que ça va vous plaire, donc gardez un œil là-dessus. Il y a des trucs assez...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Enfin, pas qui arrive. Bon, pas la révolution non plus, hein, c'est pas l'iPhone.
Trop teasing, trop teasing.
Tiens, bah justement, on parlait de sécurité et de bug bounty. Alors, j'ai lu cette news et je me suis dit, mais je le connais. Le ministère des Armées a lancé un bug bounty et tu fais partie, enfin, tu fais ta société de bug bounty, Corben, Yes We Hack, fait partie de cette initiative. Donc, tu vas aider l'armée française, en fait. Qu'est-ce que c'est que les bugs? On a peut-être déjà parlé des bug bounty, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ouais, ben pour résumer, en gros, si par exemple tu trouves un bug, une faille dans FaceTime qui permet d'écouter les gens, tu vas sur le site d'Apple dans leur programme de bug bounty, tu soumets la vulnérabilité, t'expliques comment t'as fait, et en fonction de si c'est critique, pas critique, des implications, etc., et puis de ce que t'as expliqué, hein, si tu prends le temps de bien expliquer, de faire des jolies captures écran, de discuter avec les mecs, etc., pour bien leur montrer que t'as passé du temps et que t'as bien cherché, ben tu peux toucher de l'argent, voilà. C'est une façon en fait pour les sociétés d'acheter en fait leur propre faille pour éviter justement qu'elles soient exploitées par des cybercriminels et puis pour pouvoir les corriger au plus vite. Ça évite que des vulnérabilités se baladent dans la nature.
Donc c'est de
de la chasse aux bugs.
La chasse aux bugs. Et du coup ça motive les white hat hackers, donc les hackers gentils, à aller chercher des bugs sur ton produit plutôt que de laisser la porte ouverte aux méchants hackers qui là pour le coup vont l'exploiter.
C'est ça, ou même il y a même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent des vulnérabilités. Là, la dame là, le garçon qui a trouvé le bug FaceTime, il aurait pu ne rien dire à personne, l'utiliser pour lui une fois de temps en temps, faire marrer les copains, mais du coup la faille serait restée là jusqu'au moment où elle est sortie.
Ça remonte aux oreilles
qu'elle puisse être utilisée, je sais pas, par la NSA ou alors qu'elle finisse sur un blog et qu'elle soit exploitée massivement par tout un tas de gens. Donc le problème c'est que des failles il y en a tout le temps, toujours, parce que les boîtes développent en mode agile, testent à peine leur code, vont très vite en fait dans les nouvelles fonctionnalités qu'elles poussent en ligne, etc. Donc il y a jamais rien qui est sécurisé à 100%, c'est impossible. Et donc il y a toujours même des nouvelles failles qui arrivent, des nouveaux problèmes de sécurité qui peuvent arriver. Et le concept même du bug bounty, c'est de permettre à une communauté de hackers, de gentils hackers, de chercher ces failles, de les remonter. Et en fait, si tu veux, c'est un peu comme du test de sécurité H24, 7 jours sur 7 en fait, sur ton appli.
Voilà. Et là donc, le ministère des Armées, pour ces systèmes, d'après ce que je comprends, a lancé un bug bounty sur ces systèmes, quoi.
C'est ça, alors, le ministère des Armées...
C'est positif, quoi.
Ouais, alors c'est un peu particulier parce que c'est le ministère des Armées, donc en fait les gens qui peuvent participer, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est des gens qui sont dans la réserve opérationnelle cyber, donc c'est des gens qui sont, on va dire, déjà référencés côté ministère pour avoir accès à ces programmes de bug bounty, donc ils sont invités entre guillemets et ce sont des gens qui, ça va pas être n'importe qui, quoi. Ils ont déjà été présélectionnés quelque part, mais ça va permettre justement de sécuriser au mieux les installations, les sites, les services de l'armée.
Mais c'est hyper important du coup. Comment ils faisaient avant? Ils avaient leurs équipes internes de chercheurs qui cherchaient les bugs?
Alors, ouais, c'est ça. Avant, même encore maintenant, il y a des dans les entreprises, que ce soit le ministère des Armées ou ailleurs, ils ont des équipes internes qui font du test. Voilà, qui s'appellent les Red Team, donc qui font du test de sécurité sur tout un tas de trucs. Ils font des audits aussi avec des boîtes privées externes. Et ça prend du temps. Et puis ça reste limité, si tu veux. Ça reste limité en temps, ça reste limité en capacité humaine parce que
Alors que là, tout le chercheur. T'ouvres plus là, voilà. ou moins les portes et tu dis, c'est un petit peu le l'ubérisation de la chasse au, enfin du penetration testing quoi. C'est tu ouvres le truc à tout le monde, chacun. En l'occurrence, le ministère des Armées, comme tu le dis, c'est plus limité, mais sur le principe, tu ouvres le truc à tout le monde et puis chacun, ça se, comment dire, c'est du test de pair à pair et donc ça fonctionne plus rapidement et
c'est ça, priori, sachant que si tu prends Uber, tu parlais d'Uber, mais tu prends Uber, les chauffeurs Uber sont de moins en moins payés et galèrent de plus en plus. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire que les récompenses augmentent année après année et sont de plus en plus intéressantes. Et,
on va parler des chauffeurs Uber dans une seconde, je ne suis pas convaincu que ça soit effectivement. Mais bon, ok, donc très intéressant et c'est pas mal que le ministère des Armées s'y mette aussi. Et le truc que je retiendrai ou que je demanderai aux auditeurs de retenir s'ils ne sont pas très au fait de ce genre de problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les systèmes vraiment complètement sécurisés n'existent pas. Il y a toujours des bugs qu'on peut trouver, il y a toujours des manières hyper compliquées d'arriver à pénétrer un système. Et il y a cette illusion parfois chez certains que on va voir un système sécurisé. Alors oui, il est aussi sécurisé que possible, et peut certainement que pour les systèmes qu'utilisent les forces armées, c'est plus sécurisé qu'ailleurs et aussi sécurisé que possible, mais c'est jamais complètement sécurisé, donc c'est important à savoir pour comprendre comment on approche ces problèmes, quoi.
Ah, puis il suffit que tu fasses une mise à jour, il suffit que ça soit sur une mise à jour sur un serveur ou sur une appli, il suffit que qu'il y ait un petit changement à un moment quelque part, ça peut provoquer une faille, quoi. Et les failles, voilà, il y en a qui sont faciles à trouver, il y en a qui sont plus complexes. T'as aussi des failles. Enfin, on s'imagine toujours qu'il faut être un très grand technicien en sécurité informatique pour trouver ce genre de vulnérabilité. Là, on l'a vu avec le gars de 14 ans, là, il a trouvé ça assez facilement il a fait un truc, il a vu qu'il y a une faille. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a des gens qui connaissent aussi bien les métiers.
Apple disait qu'ils ont 1 milliard d'utilisateurs maintenant, quasiment 900 millions d'utilisateurs sur tout ça. Il y en a bien un qui va appeler, ajouter son numéro de téléphone par erreur et voir ce qui se passe, quoi.
Mais il y a aussi des gens qui ont des connaissances, on va dire métiers, des connaissances fonctionnelles, hein, que ce soit des connaissances dans le milieu de la banque, du tourisme ou tout ce que tu veux, qui ont des approches qui vont être différentes de ceux qui font de la technique, qui font de la recherche de failles pure et dure.
Ouais.
Connaissent bien les systèmes, connaissent bien ce qu'il y a derrière, savent comment ça fonctionne derrière au niveau métier et peuvent aussi trouver des vulnérabilités sans avoir des énormes compétences techniques de fou.
On se souvient de l'histoire des apps de fitness et de jogging traquaient les gens partout, enfin qui avaient donné des données anonymisées. Mais que justement les forces armées américaines utilisaient dans des bases d'opérations secrètes au Moyen-Orient, et du coup les gens qui étaient juste peut-être des statisticiens ou qui regardaient les données comme ça se sont rendus compte qu'on pouvait du coup les retrouver dans ces endroits-là. Donc
Ce qu'il faut comprendre avec la sécurité informatique, c'est un peu comme la vaccination, en fait. C'est parce que il y en a justement qui prennent le temps de se sécuriser que ça protège quelque part aussi les autres, parce que aussi
dire que ça rend les enfants autistes, la sécurité informatique, c'est ça.
Ça peut rendre les hackers autistes parce que ils ont le nez plongé dans leur ordi, des fois tu peux leur parler, ils se retournent même pas. Mais ça en fait, par exemple, imagine, tu vois, le site des impôts est sécurisé, les mecs mettent beaucoup d'argent, etc., pour sécuriser le site des impôts. Ça veut dire que toi, en quelque part, quand tu vas saisir tes données, ou en tout cas ça va protéger aussi toi tes données, même si toi ton ordi perso c'est une vraie passoire et t'as même pas un antivirus, c'est rien du tout. Donc en fait voilà, la sécurité, c'est tu vas sécuriser ton ordi, tu vas recevoir une pièce jointe vérolée. Peut-être que grâce à ton effort que tu as fait d'installer un antivirus, cette pièce jointe vérolée va pas se répandre à ton ordi, à tous tes contacts. Donc quelque part, en te protégeant toi, tu protèges aussi tous tes contacts. Donc c'est il y a ça qui est vachement important. Et si je peux conclure là-dessus, si vous trouvez des failles de sécurité, il faut absolument les remonter. C'est important parce que si vous les laissez, elles seront redécouvertes plus tard, seront exploités par des gens qui seront moins bien intentionnés. Mais il ne faut pas les remonter n'importe comment. Si là, vous trouvez une faille sur le site de votre banque, si vous les contactez, il peut y avoir des chances quand même qu'on vous envoie les gendarmes le matin pour être sûr que vous n'ayez pas détourné de l'argent, ou pour essayer de comprendre si vous êtes un criminel ou pas. Ouais, ça c'est fait, et je pense que ça se fait encore. Donc si pour remonter une faille, on va dire proprement, il y a plusieurs techniques. Il y a soit se renseigner un peu et voir si la banque justement a pas un programme de bug bounty. Donc ça permet de remonter le truc dans un cadre donné et puis de toucher une récompense. Ça c'est le bonus, mais ça peut aussi être fait de manière, on va dire propre, comme ça. Et ou alors de la remonter via des plateformes. Alors il y a le site Zatas qui est assez connu, qui a un programme de remontée comme ça. On peut en gros lui envoyer la faille et puis lui se charge de transmettre le truc. Et moi avec mes compères de YesWeHack, on a créé un site qui s'appelle zerodisclo.com, qui permet en fait, qui est accessible soit via Tor soit directement, hein, qui permet de remonter des vulnérabilités comme ça de manière anonyme et en étant en se protégeant en fait. C'est-à-dire que voilà, comme ça tu fais quand même ton devoir de citoyen, tu remontes la faille, ça évite qu'elle reste là sans être pointée du doigt, et bon, tu toucheras pas de récompense en faisant ça, mais en tout cas tu permettras elle sera connue ensuite de la banque qui pourra la corriger. Voilà, il y a des choses comme ça à savoir.
Quelle gentillesse avec les banques, c'est bien bon de ta part.
Il a bien changé quand même.
ouais, t'as vu ça.
Fut une époque, c'était un rebelle.
L'argent finalement.
C'est ça. À propos de sécurité informatique, le Japon a voté une loi intéressante. Ils ont autorisé une équipe du gouvernement à aller scanner tous les objets connectés du pays, pour s'assurer qu'ils soient bien sécurisés. En fait, ils ont plus de 200 millions d'objets connectés au Japon, et ils savent bien que une énorme partie d'entre eux ne sont pas sécurisés. Et avec l'arrivée des Jeux Olympiques en 2020, ils sont très inquiets sur les différentes conséquences négatives que ça pourrait avoir, que ça soit des attaques ou plein de problèmes que ça peut poser. Et donc, ils ont voté une loi qui autorise une équipe du gouvernement à aller scanner ces objets connectés en utilisant soit les mots de passe par défaut, donc admin password machin, ce qui est, t'as pas le droit normalement d'aller t'infiltrer dans les systèmes informatiques des gens, soit des dictionnaires de mots de passe connus, donc tous les passwords 1, 2, 3 et les dictionnaires de millions de mots de passe qui sont déjà connus. Et si jamais ils trouvent des appareils qui sont pas sécurisés, ils font remonter l'information au fournisseur d'accès Internet, qui ensuite a en charge de contacter la personne en question et lui dit « sécurise ton truc ». Je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il va y avoir un gros bordel quand tu reçois ton mail. « Votre truc n'est pas sécurisé, mettez-le à jour ». Mais la plupart des gens vont dire « Mais comment, quoi, de quoi vous me parlez ?» Mais c'est quand même bien, non ? Enfin, je ne sais pas.
Pour moi, ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. C'est le rôle des boîtes qui vendent les accès, etc. Donc, je ne sais pas, du matos, je sais pas, Google, ou du matos WeThings, ou je sais pas quoi, c'est quand même à eux d'avoir un minimum de sécurité, voire d'avertir leurs utilisateurs s'ils n'ont pas changé le mot de passe par défaut. Après, que ça soit le gouvernement quelque part qui le fait, je trouve ça moyen, moi. Mais après,
ça te dérange que le gouvernement aille essayer de s'infiltrer dans tous les... c'est quand même pour une bonne chose.
C'était des objets connectés du gouvernement, de l'administration, ou ce que tu veux, je dis ok. Mais là, c'est les particuliers. Alors, c'est bien de les avertir, mais en fait, je pense que ça aurait été plus efficace de faire une loi qui oblige les boîtes privées qui commercialisent ce genre de trucs à surveiller leur propre réseau et à avertir les clients, leurs propres outils. Parce que là, ça peut se faire proprement, ils peuvent améliorer aussi le truc, ils peuvent faire des mises à jour, etc. Mais en gros, après ça, n'importe qui peut le faire. Tu vas sur Shodan, et puis tu scannes tout Internet, et puis tu vois tous les objets.
C'est quoi Shodan? Je connais pas.
Alors Shodan, c'est un site super, ça s'écrit Shodan. Et en fait, c'est, en gros, Shodan, c'est comme Google, si tu veux, sauf qu'ils scannent toutes les adresses IP. Ils scannent pas des sites web, ils scannent des adresses IP, donc ils ont tout scanné, tout Internet, tout ce qui est connecté à Internet, c'est scanné. Et quand je dis scanné, c'est que tu sais dans quel pays c'est, les ports ouverts, ce qui tourne dessus, etc. Et dans tout ce qui est scanné, des fois, il y a des choses qui sont justement pas sécurisées. Donc, tu as accès à des webcams qui sont chez les gens, qui sont en clair, que tu peux accéder directement comme ça. Tu as des trucs, alors évidemment, si tu tentes les mots de passe par défaut, tu vas pouvoir aussi accéder si c'est pas sécurisé. Tu as des imprimantes qui sont pas protégées, tu as des serveurs, parfois tu as même des
systèmes.
tu sais, d'usines, des systèmes qui sont utilisés pour piloter les usines sur lesquelles tu peux récupérer des infos. Il y a de tout, en fait. Voilà, il suffit de.
En fait,
de
le gouvernement japonais aurait dû contacter Shodan et travailler avec eux.
Ils auraient pu prendre une clé API à je sais pas combien, 15 balles par mois, et ça aurait coûté de faire chier.
Mais bon, d'accord.
Pourquoi pas? Non, c'est pas 15 balles, mais corporate, c'est 900 balles par mois. Donc je pense que
ils auraient pu faire des économies, effectivement.
Voilà.
Bon, j'ai une autre nouvelle de contrôle gouvernemental. En Chine, le gouvernement a décidé de restreindre encore plus le temps de jeu autorisé aux jeunes. Alors, pour vous donner une idée, maintenant, chaque personne qui se connecte à un jeu en ligne ou à un jeu tout court a un temps, il y a une sorte de contrôle parental, sauf que les parents, c'est le gouvernement. S'ils ont moins de 12 ans, les enfants ont le droit de jouer une heure par jour et deux heures le samedi et le dimanche. De 13 à 18 ans, ils ont le droit de jouer deux heures par jour du lundi au vendredi et trois heures le samedi et le dimanche. Et donc voilà, et c'est le gouvernement qui impose ces choses-là. Je sais pas si c'est bien ou pas, c'est le boulot des parents peut-être.
Ouais, j'essaie de me mettre dans la peau du gouvernement chinois, ce qui est pas simple, mais je pense que s'ils font ça.
Ah oui, pardon, excuse-moi. Ils ont aussi interdiction de jouer la nuit, etc., etc. Mais il y a des couvre-feux en plus des.
Alors, si tu reprends le truc à la base, moi j'ai creusé un peu le sujet aussi là-dessus, les écrans c'est pas bon pour les enfants. Trop d'écrans c'est pas bon pour les enfants. Donc quelque part ça bloque aussi leur développement, on va dire, psychique,
etc. Oui, ça c'est quand ils sont très jeunes quand même, c'est pas à 12 ans.
Quand ils sont très jeunes, mais même après, c'est-à-dire que s'ils font que de l'ordi, que du jeu, que des trucs sur ordinateur, ils vont faire sûrement des choses très bien, mais ils vont se priver de plein d'autres choses. Et quelque part, je suis désolé de dire ça, je vais peut-être paraître un peu...
j'ai l'impression que tu pars dans une question qui va me faire recevoir des millions de commentaires du sujet de...
Il y a des études scientifiques, il y a plein de trucs sur le développement de l'enfant qui expliquent qu'en gros, faut le faire, mais avec modération, et beaucoup de modération. Et je pense que...
Donc tu dis c'est une question de santé publique, quoi?
Ouais, je pense que c'est ça. Et si les Chinois ils font ça, c'est pas pour faire chier le monde, c'est parce que je pense qu'ils veulent que leur citoyens, entre guillemets, continuent à être... se transforme pas en je sais pas quoi et continue à utiliser leur cerveau de manière correcte et continue, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose comme ça derrière.
Oui, je suis sûr que l'intention est là. Je pense quand même que à 16 ans, t'es capable de savoir. Enfin, moi, je passais ma vie devant mon écran à 16 ans.
Ouais, moi, pareil.
Mais on s'en est pas trop mal sorti. Cédric, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui as des enfants?
Je suis partagé,
Parce que, encore une fois, pardon, la question n'est pas de savoir si les écrans sont nocifs ou pas. On sait que c'est nocif et on sait qu'il y a des questions d'âge et on sait qu'il y a des questions de modulation, etc. Repartons pas sur cette question, j'y ai déjà eu droit ce week-end sur Twitter, parce que j'ai posté une photo marrante de mon fils qui tient une manette PlayStation qui a un an. Évidemment, il n'était pas devant l'écran pendant je sais pas combien de temps, c'était genre 2 minutes, et c'était pour faire la photo, c'était marrant, parce que moi je suis un gamer. Mais au-delà de ça,
Tu vois, ma fille, elle joue pas aux jeux vidéo plus que ça.
Non, d'accord, mais la question, c'est la Chine. Est-ce que la Chine, qui impose ça aux parents, qui impose ça à tout le monde... Bon, en même temps, c'est la Chine, évidemment, qu'ils imposent des trucs, mais je sais pas, j'ai trouvé ça marrant.
Pour moi, c'est un problème... Je pense qu'ils prennent ça comme un problème de santé publique.
C'est ça. Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est comme si on disait on interdit la cigarette au moins de... Voilà. Non, c'est déjà le cas. Mais enfin, bref, vous m'avez compris, quoi.
Non, mais c'est ça. On le fait en France. La cigarette est interdite au moins de 18 ans. C'est finalement, si on considère que le jeu vidéo à trop grande dose est nocif, on peut, oui. J'avais pas pensé à l'approche de la santé de santé.
Est-ce qu'ils ont raison? Enfin, tu vois, la question, c'est est-ce que c'est pas eux qui ont raison finalement?
Je crois qu'avant 12 ans, il y a. Le truc, c'est qu'on a les outils, a priori, pour faire ça au niveau de la famille. C'est-à-dire qu'il y a des outils de contrôle parental. Non, bien sûr. Mais si t'es préoccupé par la chose. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Tu peux.
Moi, je suis le contrôle parental sur la Switch de mon fils et il a un temps limité de jeu par semaine.
Ouais, mais je suis pas sûr que la majorité des gens.
On en revient à la question de est-ce que les gens.
Là-dessus, quoi.
Bon, ok, je voulais pas relancer tout un débat sur la question. Clairement, c'était un sujet beaucoup plus vaste que je ne pensais. Moi, j'ai trouvé
Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on y viendra peut-être. Tu vois, peut-être qu'avant, les gamins de 5 ans pouvaient aller acheter des clopes et boire de l'alcool.
Oui.
Et puis maintenant, ça a changé. Bah, peut-être que maintenant, là, c'est open bar pour le jeu vidéo. Peut-être que dans 15-20 ans, ça sera pareil, tu pourras pas jouer
par jour. Moi, je crois que dans le cas de la Chine, c'est aussi parce que ça s'inscrit dans une politique générale de contrôle et de restrictions, et que si tu limites le temps d'accès aux jeux vidéo, c'est beaucoup plus facile de faire passer des restrictions sur d'autres trucs, comme Internet, par exemple, pour tout le monde, et les trucs qui sont pas sains. Si tu veux, la question de santé publique venant de la Chine, c'est pas forcément le meilleur exemple qu'on pourrait trouver. Mais surtout quand on parle de questions technologiques. Quand on parle de questions technologiques.
On te laisse apprécier juste tes propos. Hein.
Étant donné qu'il y a aussi des histoires de crédit social par rapport à ce que. Et d'espionnage généralisé.
Moi, je veux pas de problème avec la Chine.
Oui, non, d'accord. Bon, est-ce que tu veux des problèmes avec le gouvernement de M. Macron qui demande la suppression de photos, de sortes de memes un petit peu débiles? On a vu cette histoire ressortir sur un article de Libération. Enfin, c'est pas un article en fait, c'est un scandale qui est sorti. Et comme d'habitude, pour savoir si de quoi il en tourne, moi je vais sur checknews.fr, qui est un service de Libération qui est excellent. En fait, il y a un utilisateur de Google+, d'ailleurs entre parenthèses, Google+ disparaît dans 2 mois, hein, au revoir, qui a fait une sorte de photomontage avec les visages, il a ajouté les visages de Macron et Édouard Philippe sur une photo de Pinochet. Et il semblerait que selon...
Alors si ça a été Pinocchio,
ça aurait été différent. Mais je suis sûr que certains auraient pensé que c'était tout aussi approprié. Mais donc, il y a eu un organisme de l'État qui s'appelle l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information a demandé la suppression de cette image à Google selon une loi qui est censée gérer la suppression des contenus terroristes. Et c'est évidemment une dérive de ce type de loi qu'on dénonce tous dans les milieux informatiques et dans tous les milieux qui sont attachés à la liberté d'expression depuis toujours. C'est que quand on donne ce genre d'outils à un gouvernement ou à n'importe qui, au bout d'un moment, il est possible que ça soit mal utilisé. Et là, ça a été, je pense, clairement le cas. Enfin, c'est un photomontage débile, complètement aussi inoffensif que n'importe quel photomontage de l'histoire des photomontages. Parmi les plus inoffensifs, c'était un mime un petit peu idiot. Et ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle on s'en est rendu compte, c'est pas qu'il y a un organisme en France ou même en Europe qui s'occupe de surveiller toutes ces demandes. C'est un projet de l'université de Harvard aux États-Unis qui, en plus de ça, est financé par Google, qui trouve leur intérêt dans le fait d'avoir beaucoup de transparence dans ces opérations. Mais donc voilà, on a eu cette information qui est ressortie. Je me tourne vers Cédric parce que
vas-y.
Je me demande ce que Cédric en pense. Et bon, vas-y, dis-moi.
Écoute, je sais pas quoi dire. Moi, je trouve que c'est... Tu rigoles à chaque fois, Corben.
Non, mais vas-y.
Franchement, je trouve ça ridicule, mais...
Qu'est-ce que tu trouves ridicule?
Non, mais je sais pas. Il existe le droit à la caricature pour moi, ou créer des mimes un peu cons. S'il y avait une loi qui empêchait d'être con, il y aurait beaucoup de gens qui seraient enfermés, tu vois. Alors après, il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi. Non, mais c'est vrai. Il y a après des choses qui tombent sous le coup de la loi.
Non, mais le plus important, c'est que là.
On a décidé.
Là, ça tombe pas sous le coup de la loi. Enfin, c'est une loi qui est censée. C'est un abus.
Excuse-moi, si ils avaient été mis en Asie,
je te demande ton avis et je réponds pour toi, mais c'est honteux cette demande. Et heureusement qu'on a pu la voir ressortir pour que ça ne se passe plus jamais. Enfin,
je vais faire une supposition de comment ça s'est passé en vrai dans la vraie vie. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un chez
dans l'office en question,
les trucs en marche. Les Républicains en marche, mais bon voilà. le Rassemblement National en marche, qui a dû se dire putain, il y a une photo de notre chef qui est représentant Pinochet. On va déposer une plainte ou je sais pas quoi, ou alors
il a appelé son pote à l'office
côté procureur. Que le mec qui a géré l'histoire a appelé les gens de l'OCLCTIC qui ont du coup suivi la procédure et fait une demande de retrait comme ils le font pour des contenus pédophiles ou terroristes ou tout ce que tu veux. Mais si tu veux, c'est pas, je pense pas que ça soit directement Emmanuel Macron qui a
fait une photo. Ah non, mais bien sûr.
Voilà. Mais Mais en fait, ce qui est ridicule là-dedans, c'est pas forcément que les gens aient réagi comme ça. Enfin, pas que le CSTC ait fait une demande pour retirer la photo. C'est juste que les mecs, ils ont encore rien compris, quoi. C'est-à-dire que à partir de quel moment tu tires des ficelles ou tu fais jouer ton réseau pour virer un mime ou une photo, un montage photo comme ça, tu sais forcément que ça va bad buzzer, tu sais forcément que ça va te retomber sur le nez et que la photo elle va être vue X milliards de fois plus, quoi. Donc à un moment, je me dis qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent pas, qui sont encore bien idiots sur toutes les problématiques d'internet et sur ces histoires de bad buzz et compagnie, et qu'il ferait mieux d'être un peu coaché, ou en tout cas de se poser 5 minutes et de réfléchir, quoi, parce que là c'est ridicule, en plus c'est pas forcément pas raccord avec la loi, et en plus ça mobilise des forces de police qui ont autre chose à foutre que ça, qui traquent les pédophiles, qui traquent les terroristes, ou même les arnaques sur internet, mais voilà, qui ont autre chose à foutre que de chasser les photos montage à la con, quoi. donc je pense que ça a même dû énerver les flics qui ont demandé le retrait, quoi, si tu veux.
Peut-être même que c'est eux qui ont contacté la presse pour dire attendez.
C'est possible aussi, j'en sais rien. Bon,
mais ouais, ce que je dirais également pour mettre tout de suite, enfin couper court aux réactions extrêmes qui pourraient dire ces lois impossibles, machin. Le problème, c'est que ces lois, je pense, ou ces outils d'une manière générale, on en a quand même besoin aussi. Il faut qu'on puisse demander aux hébergeurs de supprimer. Alors, de quelle manière, comment, ça, on peut peut-être en débattre, mais de supprimer des contenus qui sont clairement dangereux ou... On s'en moque souvent, on dit « Ah voilà, dès qu'on veut faire passer une loi répressive, on invoque le terrorisme et la pédophilie. » C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le terrorisme et la pédophilie ne sont pas des problèmes sérieux contre lesquels il faut s'équiper. Et en l'occurrence, je pense que la loi telle qu'elle a été conçue me semble juste. Ceux qu'il faut surveiller et continuer à surveiller, c'est ce genre d'abus, et taper très fort sur les doigts de ceux qui en sont responsables et leur mettre la honte pour qu'ils ne recommencent pas, quoi.
Bah, là, quelque part, il y a eu clairement un abus de pouvoir, ou en tout cas du tirage de ficelle ou du copinage qui a fait que cette plainte a pu aboutir entre guillemets.
Ça, on ne sait pas, mais oui, c'est clairement une mauvaise utilisation de la loi, quoi.
C'est ça qui aurait dû être, on va dire, pointé du doigt.
D'où est venue la demande, oui, je suis d'accord.
D'où est venue la demande, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise, quoi. Sinon, après, tous les trucs qui passent sous le tapis, ça, c'est sorti, mais et tout le reste, enfin, tu vois, on ne sait pas. Ouais.
Justement, ils ont pu aller chercher spécifiquement quels autres exemples on avait de cette d'utilisation de cette loi, et ça avait l'air cachère. Mais bon, ensuite. Ouais. Tiens, tu parlais de rémunération Uber. Alors Uber a livré plein d'informations récemment. Ils ont vraiment changé de méthode de communication, hein, mais plein d'informations, dont un chiffre qui m'a intéressé. Le salaire moyen, selon les calculs de Numérama, le salaire moyen d'un chauffeur Uber est de 1 600 € par mois pour 40 heures, c'est 40 heures ou 45 heures de travail, enfin une semaine normale, quoi, 45 heures de course, 45 heures connectées à l'app. Avec une heure de course qui est sans doute un petit peu en dessous parce qu'ils ne sont pas tout le temps en train de rouler. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça pas si mal. J'aurais pensé qu'ils gagnaient moins d'argent que ça. Il y a des... Le truc, c'est que...
Je pensais que c'était plus des esclaves que ça, finalement.
Non, mais...
Je suis étonné. Finalement, on leur donne trop d'argent, je crois.
Bah écoute, non, mais j'irai pas jusque-là. Mais le truc, c'est que... mine de rien, un travailleur, un chauffeur Uber, conduire, c'est l'un des métiers les moins qualifiés que tu puisses imaginer. C'est-à-dire que quelqu'un pour devenir chauffeur Uber, t'as besoin de rien, t'as besoin d'avoir ton permis de conduire, et plus ou enfin même pas besoin de connaître les villes parce que t'as ton GPS qui va t'indiquer. Donc c'est vraiment un boulot qui est accessible à n'importe qui. Et du coup...
Je suis pas d'accord.
T'es pas d'accord. Vas-y, dis-moi. Mais enfin, je sais pas, moi je trouve que 1 600 euros.
T'as besoin d'avoir une voiture, t'as besoin de monter une boîte, t'as besoin de faire la formation Uber, machin truc. Il y a quand même 2-3 trucs aussi à faire, quoi. Tu vois.
Bah oui, oui. T'as besoin d'avoir.
Et quand tu dis c'est pas cher payé, enfin c'est plutôt bien payé.
Non, attends, excuse-moi. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que j'aurais pensé qu'ils étaient moins payés que ça. Je pensais qu'ils étaient, qu'ils arrivaient à peine à faire un SMIC, quoi.
Quand tu prends en compte les frais au niveau de la bagnole, tout ce qu'ils ont à payer comme charge et compagnie, même les bouteilles d'eau, les bonbons, les trucs qu'on trouve, tout ça maintenant c'est à leur charge. Donc si tu veux,
écoute, d'après le calcul de Numérama, je te cite l'article.
Vas-y.
Les chauffeurs qui sont, alors je vais lire merci Numérama, les chauffeurs qui sont en statut d'auto-entrepreneur auraient un chiffre d'affaires médian horaire de 24,81 €. Une partie de cette somme est reversée à Uber sous forme de commission, une autre partie est dédiée aux frais de service, la TVA et les cotisations sociales. Finalement, il ne reste aux chauffeurs que 9 euros sur les 24. Donc sur le chiffre d'affaires en tant que auto-entrepreneur
par heure.
Par heure.
C'est moins que le SMIC.
Ah oui, du coup, c'est pas 1600. C'est 1600, effectivement, si on n'enlève pas. D'accord, bah vous avez raison.
Et les commissions. Et en plus, Uber, c'est
le SMIC, c'est 10 euros de l'heure, je crois.
À peu près, ouais. On est à peu près au SMIC, ouais.
Et Uber, c'est vraiment des chiens, parce qu'en fait, ils ont même augmenté leur marge, en fait, il n'y a pas très longtemps. Donc,
et tu payes en plus le crédit sur ta bagnole.
Ouais, ils ont 25%, je crois, de frais de commission chez Uber.
Donc, 25, voilà. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce qu'il mentionne.
Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Sachant que Uber, entre guillemets, enfin c'est pareil, c'est une plateforme, c'est un intermédiaire. Qu'ils aient 1000 chauffeurs ou 500 millions de chauffeurs, ça change pas grand chose finalement.
Non, ils utilisent Amazon Web Services.
Ouais, voilà. Donc non, mais voilà. Donc moi, je trouve que ça reste quand même payé au lance-pierre et ça se dégrade en fait. Et c'est
pire. C'est ça le problème en fait.
Et en plus, si tu cumules les gens qui font du Uber plus du chauffeur privé parce qu'ils ont les deux applis et machin, je pense qu'ils éclatent largement leurs 45 heures par semaine. Donc rajoute à ça la fatigue, les problèmes de dos dans la bagnole, la pollution et tout ce que tu veux. Enfin, pour moi, c'est un métier qui est pas facile. Hein. Si t'es à Paris, t'as la chance de voir les voies de circulation se faire drastiquement réduire pour des pistes cyclables ou des travaux un peu dans tous les sens. Les mecs, ils pètent des câbles, quoi. Ils peuvent plus faire leur boulot, en fait. C'est compliqué. Ça, à un moment, ça sera plus rentable, quoi.
Je sais pas si à un moment ça sera plus rentable, mais effectivement, si on prend ce chiffre.
Je parle pas en termes de pognon, je parle en termes d'énergie, de santé que tu peux laisser, d'agacement, de enfin tout ce que tu veux, quoi.
Ouais, ouais. Bon, très bien, vous m'avez remis dans le droit chemin.
Merci, monsieur Mélenchon.
Non, mais tu vois, c'est important d'avoir des discussions sur ces trucs-là et d'avoir des avis divergents. C'est pour ça aussi qu'on est là. Et c'est vrai que, vu sur les conditions de travail, je suis pas complètement d'accord. Généralement, ils ont des voitures relativement confortables. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps dedans.
Au mieux.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, conduire une voiture aujourd'hui, on n'est plus en 1952, tu vois, c'est quand même pas un travail.
Non, mais je pense que c'est plus cool d'être chauffeur Uber dans une ville en province que Paris.
Qu'à Paris, oui, certainement.
Ouais. Voilà.
Mais t'as aussi, bref, on va pas repartir sur Uber, mais bon, je suis d'accord que si effectivement on se retrouve avec un SMIC, c'est moins. Ce qui me surprenait, en fait. Dans ce chiffre, et il faudrait que je re-regarde, là je suis pas en train de je l'ai peut-être mal lu, mais j'avais l'impression d'avoir lu, clairement je me suis trompé, que le salaire était de 1600 € environ, là où le SMIC il est à quoi, 1200, t'as quand même quoi, 30% de plus que le SMIC pour un métier qui est très peu qualifié. Et ça me paraissait quand même intéressant. Si on retombe au SMIC, là, effectivement, on reconsidère les difficultés du travail qui sont plus importantes peut-être que ce qu'on...
Ils vont repasser les chauffeurs Uber à un moment, ils vont redevenir chauffeurs de taxi, mais comme ça, ils pourront faire la moitié de leur CAO Black. Et ils s'en sortiront. Mais bon.
Oui, bon, on va pas repartir sur les questions des taxis. Mais, bref, effectivement, 1600 de salaire moyen, ça me paraissait pas aussi dramatique que j'aurais pensé. Si le net c'est 1200, c'est le SMIC, oui. Mais ça me paraît bizarre que le salaire moyen soit au SMIC. au final, en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent moins si le salaire est... Bon,
ben
bref,
oui.
Il faudra re-regarder la chose. Je vais peut-être réserver un petit peu mon jugement.
Et quand tu es auto-entrepreneur, si tu gagnes 300 balles par mois, t'as pas de notion de SMIC.
Ah bah c'est sûr, oui. Oui,
donc
bien sûr.
Finalement, voilà, on s'en fout.
Bon, pas facile. Je suis sûr qu'il y a la moitié des auditeurs qui sont en train de hurler dans leur téléphone des slogans de gauche et l'autre moitié qui est en train de hurler des slogans de droite.
Soit ils disent la révolution, soit ils disent
c'est la vie, c'est le marché. Ouais.
Marie Clotilde, tu entendrais des conneries dans le rendez-vous.
Non mais bientôt il va falloir qu'on donne une partie de notre salaire au chauffeur Uber. Non mais écoute ça.
Bon, parlons un peu de Huawei rapidement. Alors, il y a eu, vous savez que...
C'est le numéro 007, quoi.
Ouais,
que
c'est
de l'espionnage.
Mais en fait, au final, il y a eu en fait les chefs d'accusation, les chefs d'inculpation qui ont été révélés par le gouvernement américain, qui n'a rien à voir avec. En fait, c'est le département de la justice américain, et donc ce n'est pas le gouvernement. Donc ça n'a pas forcément directement à voir avec la politique de Trump, parce que il s'agit d'espionnage industriel en fait. Principalement, vous savez que chef de la finance de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada, que la demande d'extradition a été officiellement faite au gouvernement canadien par les États-Unis. Je sais pas
si vous voyez la façon dont le truc est traité. Là, elle se fait arrêter. Il y a les chefs d'accusation, c'est bon, espionnage, machin, export de techno américaine en Iran alors qu'il y a un embargo. Enfin bon, vol de tout un tas de documents et de technologies, création de filiales pour contourner la loi. Enfin bref, il y a tout un tas quand même de chefs d'accusation qui sont assez graves et c'est la justice qui fait son travail. Et quand on entend le gouvernement chinois qui s'offusque de cette affaire politique, quand Trump ouvre sa gueule et tout ça, et moi, je mets ça en parallèle avec une autre affaire qui est celle de notre cher ex-patron de Renault, Carlos Ghosn. J'ai pas entendu l'État français contester en disant que c'était purement politique, que le Japon faisait n'importe quoi en enfermant Carlos Ghosn en prison pour des histoires de fraude fiscale et je ne sais quoi.
Bon, disons qu'il n'y a pas de background de guerre commerciale entre les deux pays, quoi.
Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, on est face à un mélange des genres complet, quoi. Après tout, une entreprise privée chinoise, si les mecs font quelque chose d'illégal dans un pays, c'est normal qu'ils se fassent attraper. Enfin, je veux dire, demain, si ça s'était passé en France, la justice aurait tranché, elle aurait fini en tôle. Et je vois mal la Chine nous dire, écoutez, les gars, allez vous faire foutre, c'est une ressortissante chinoise. Nous, il n'est pas question qu'elle ait en tôle, on vous envoie l'armée, tu vois. Enfin, jamais on aura entendu ça. Et là, est là. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre le traitement de cette information avec l'autre qui jette de l'huile sur le feu. Mais je pense qu'avec ses deux QI, il sait rien faire d'autre. Il m'énerve, ce type, il m'énerve.
Je crois qu'il n'est pas le seul.
Ah non, mais c'est insupportable. Et en fait, au lieu d'apaiser les tensions en disant, écoutez, nous, on n'y est pour rien, mais c'est une boîte privée. Si demain, Apple faisait quelque chose d'illégal en Chine, vous foutriez Tim Cook en tôle dès qu'il met les pieds sur le sol chinois, c'est pas grave. Tu vois, c'est la loi,
oui, bon.
Après tout.
Je comprends ce que tu veux dire, oui.
C'est très compliqué. Alors, soit c'est une criminelle, soit c'en est pas une, mais auquel cas, c'est à la justice de faire son taf. Après, la Chine considère que la justice américaine est biaisée et que finalement, c'est une affaire plus politique qu'autre chose. Après tout, on accuse d'ailleurs Huawei c'est même pas une accusation, c'est dans les faits, mais... D'avoir été monté par des anciens camarades du parti officiel chinois machin, qui y sont peut-être encore ou qui y sont plus, je m'en fous à la limite, mais du coup montrer que finalement c'est si grave que ça de la part de la Chine, je trouve que c'est pas c'est pas aller dans le sens de ah ben non, nous c'est une entreprise privée, c'est pas l'État chinois qui vous espionne, tu vois.
Si tu veux.
C'est plutôt aller dans le sens inverse du truc, quoi. Je sais pas. Pour moi, c'est là tu te dis il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent aussi violemment après tout si elle a fait des conneries et qu'elle soit punie, quoi, tu vois. Sauf que si elle fait partie du parti machin, ça devient une affaire politique. Et là, c'est très compliqué, quoi. C'est pas une diplomate
bon.
Non plus. Hein.
Ah bah non, pas du tout. Moi, je suis assez content que maintenant les charges aient été énoncées. Du coup, ça sort un petit
voilà,
peu du domaine.
Voilà, on
y voit plus clair. Ouais, et puis bon, moi, je vous avoue que ça sort tellement effectivement du cadre tech que j'avoue sans honte que je suis un petit peu perdu, quoi. Mais oui, il y a clairement une composante politique là-dedans. Revenons donc dans le cadre tech pour conclure avec des téléphones qui ont été teasés par différentes sociétés. Alors, il y a deux types de téléphones. Des téléphones pliables, un téléphone de Xiaomi qui a une sorte de tablette prise en orientation paysage dont on plie les deux extrêmes et qui se transforme du coup en téléphone. Et puis il y a un petit sort de buzz ou de fuite, on ne sait pas trop, de Samsung qui aurait montré un petit peu son téléphone pliable à eux dans une vidéo.
Mais en fait, ils avaient montré leur téléphone Samsung déjà sur scène. Hein,
oui, oui, mais ça c'était avec la, tu sais, avec la
développeur.
Oui, mais ils avaient la coque hyper épaisse qui faisait qu'on ne voyait pas la forme, qui est hyper important pour un téléphone pliable.
Et il y a aussi l'invitation de Huawei, justement.
Et il y a également le Meizu, qui est un téléphone. Ce n'est pas le seul, mais je crois qu'il y a deux téléphones, en fait, qui n'ont aucun trou nulle part. Aucun port, aucun bouton, aucun rien du tout. C'est le Meizu 0, par exemple.
D'accord. Il aurait dû l'appeler le Meizu Courage, hein, parce que bon, ils ont quand même eu le courage d'enlever tous les ports et tous les trous. Apple avait dit que c'était courageux d'enlever le jack.
C'est un peu ça, même au-delà,
c'est la bravoure extrême.
Il y a Vivo qui a aussi fait un téléphone qui s'appelle le Apex 2019, sans aucun bouton, sans rien. Je sais pas si on en a besoin ou... Cédric, t'es un spécialiste de téléphone, plaisantes avec...
téléphone
sans aucun port, sans rien, ça t'intéresse ?
Non, en fait, pour tout te dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le Meizu One, du coup, parce que là, c'est le 0, qui sortira sans téléphone. où j'achèterai une boîte et il n'y aura pas de téléphone. Non, mais blague à part, c'est une tendance. Je veux bien comprendre l'idée, tu vois, derrière tout ça. Mais en fait, on est vraiment dans une période où j'ai l'impression que, comme il ne se passe pas vraiment des trucs nouveaux, on cherche un peu. Mmh. Et plutôt que d'être un suiveur, parce que c'est très mal vu d'être un suiveur, bon, on se rappelle du notch et tout ça, hein, quand maintenant Samsung sort des notch alors qu'ils se sont tellement moqués d'Apple avec des notch et tout ça, t'as l'air un peu con après, tu vois.
Ouais,
donc de finir suiveur, surtout quand t'as une communication agressive, eh bien... Là, tout le monde essaie de sortir le truc qui sera... On ne pourra pas dire, ah, vous avez encore copié sur Apple. Et donc, du coup, l'idée de se dire, je sors un téléphone sans rien, enfin, juste un écran, tout ça, machin, c'est... En plus, celui de Vivo, hein, le Apex, c'est plus un concept. Hein, c'est pas vraiment un téléphone final. Je pense que c'est plus pour prendre la température du marché. Meizu, ils n'existent plus vraiment. Enfin, chez nous, en tout cas, ils n'existent plus vraiment. C'est un moyen pour eux de faire un peu de buzz. Parce que le Meizu va être vendu à 100 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, à 1 300 $. C'est un projet Indiegogo à 1 300 $. Ils ont vendu le prototype 3 000 $, je crois. Ils l'ont vendu. Et ça y est, il a trouvé preneur et il va être livré le mois prochain.
C'est Samsung qui l'a acheté ?
Non, je ne sais pas, peut-être oui, pour copier, mais je ne sais pas. Mais il n'y a que 100 modèles. Donc, ce n'est pas un truc de série incroyable.
Ouais, c'est
vraiment juste
pour
qu'on en parle. C'est juste pour qu'on en parle. Et ils ont raison, après tout, ça fait de la pub. On prononce le nom de Meizu, donc ça suffit à faire de la pub. Mais dans les faits, je n'y crois pas trop à ce principe-là. Regarde aujourd'hui, les gens ont mis énormément de temps à s'habituer déjà aux claviers tactiles, tout ça. On n'est pas prêt d'avoir par exemple des claviers 100% tactiles sur un ordinateur et tout. Le bouton, c'est quand même encore le seul geste physique qui te relie à ton appareil. Je pense que c'est trop tôt en fait. Ouais. C'est beaucoup trop tôt pour retirer les boutons. Et puis je vois pas ce que ça apporte en fait.
C'est
surtout
ça,
les boutons et les connecteurs. Enfin,
je crois que t'as raison.
Les connecteurs,
on est vraiment
je peux comprendre
dans
en place interne. Mais après, les boutons, tu as gagné quoi ? Un demi-millimètre d'épaisseur ?
Ouais, c'est vraiment, on est dans une période où on a atteint un plateau avec les téléphones mobiles,
c'est ça,
ils ont leur
on
forme finale. C'est comme Sangoku dans Dragon Ball Super, où il est en Super Saiyajin God bleu, là. C'est la forme finale. Bon, après, il y aura certainement d'autres formes, mais là, on est à un plateau, et donc, ils cherchent d'autres trucs, et...
C'est ça. Et là, l'idée de se dire, tiens, on va essayer sans port. Il y en a qui mettent deux écrans avec un écran derrière pour les selfies, machin. Enfin, on essaie de trouver des trucs.
J'entends les soupirs de Corben à répétition.
Ça fait
derrière.
Corben, mais c'est
ça fait longtemps.
Sincèrement, je pense que ça n'a pas, ça a très peu d'intérêt. Et même le pliable, pour moi, c'est, enfin, je vois mal aujourd'hui comment ça peut être l'usage qui va en découler.
J'ai l'impression que on commence à entendre, après l'enthousiasme initial sur la performance technique, technologique d'un téléphone pliable, j'ai l'impression qu'on commence à entendre de plus en plus de gens justement qui disent « Oui, ok, c'est intéressant techniquement, mais à quoi ça sert ?» Personne ne trouve de réponse. C'est quand même inquiétant que sur tous les commentateurs tech du monde, à part le fantasme de se dire « Oui, avoir une sorte de taille tablette quand on veut et une taille téléphone quand on veut », le problème, c'est que tous les gens qui disent ça disent aussi « Mais oui, mais si le téléphone est deux fois plus épais, ça ne m'intéresse pas. »
Voilà, c'est ça.
Un retour au téléphone à clapet, nouvelle génération, quoi.
Tu vois, le seul truc où moi j'avais vu un intérêt à l'époque, c'est quand on avait commencé à parler des téléphones enroulables, tu vois, où c'est un espèce de stick, où tu téléphones avec et t'as pas besoin d'écran quand tu raccroches un appel ou un truc, tu vois. Et tu le déroules éventuellement pour consulter tes mails, tes machins, tes trucs. Ok, je peux éventuellement comprendre que quand le grand écran est désactivé, t'as plus d'autonomie, que tu te sers pas de l'écran tout le temps, ok.
Ouais, je pouvais comprendre. Mais là, c'est pas ce qu'on est en
train
de voir.
Mais les usages en plus ont tellement changé depuis ces premiers concepts. Où finalement on téléphone plus trop et on utilise son écran, que du coup même ce concept-là aujourd'hui, je sais même pas s'il aurait un avenir, tu vois. Donc j'ai du mal à imaginer aujourd'hui ce que ce genre d'appareil peut apporter au marché, quoi.
Bon merci Cédric pour ce rayon de soleil dans les news tech, d'optimisme et de joie.
Complètement.
C'est donc sur cette note complètement déprimante que nous allons conclure cet épisode. Les téléphones ne servent à rien, les innovations ne sont plus là, mais on sera quand même là, nous, pour continuer à vous parler de tech la semaine prochaine. Et d'ici là, si certains de nos auditeurs veulent en savoir plus sur ce que vous faites sur Internet, dites-nous tout. Cédric, tiens, puisque tu parlais, où on peut te retrouver?
Oh ben moi, tu le sais, hein. StudioRenegade.fr, c'est là où vous pouvez retrouver toutes les différentes émissions et tout ça, qui vont vous diriger sur Twitch, puisque moi, je suis maintenant quasiment uniquement dans le Twitch game, comme on dit, avec Patrick qui, de temps en temps, vient streamer chez nous. Hein.
C'est vrai.
Ça rigole pas, ouais. Il fait de l'Overwatch et il joue bien. Je suis admiratif. Hein,
parce que je joue pas aussi bien
Overwatch. Non, je joue pas aussi bien Overwatch.
C'est vrai? Je joue mieux que toi, clairement, Overwatch.
Non. Ça fait largement. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué en plus. Donc,
non, t'as pas bien compris, Cédric. T'aurais dû dire, ah oui, mais moi j'essaye tout le temps, mais j'y arrive pas. T'es tellement meilleur, mais j'essaie.
Je vois que jamais j'arrive à ton niveau, je me dis, c'est décourageant à force. Mais en même temps, je me dis, c'est bien, j'apprends des meilleurs, donc je regarde tes streams religieusement.
Merci.
StudioRenegade.fr pour voir tout ça. Je suis tous les matins aussi en direct sur Twitch pour parler de tech et faire la revue du matin en dépliant mes flux RSS. Voilà.
Parfait. Corben.
Alors moi, je suis pas dans le Twitch game parce que je joue pas trop, à part à Rimworld en ce moment. Plus, donc voilà. Non,
tu joues à Rimworld?
Ouais, Rimworld, ouais, j'ai découvert ça il y a 2 semaines et j'aime bien.
Très bien.
Et non, voilà, bon, pour en reparler. Du coup, moi, c'est sur le blog, hein, corben.info, et puis après, sur les réseaux sociaux, Corben sur Twitter, et puis Corben00 sur Instagram.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr ou sur votre app de podcast. Ou même, si vous voulez la soutenir, allez dire à vos amis que l'émission est cool et qu'ils devraient l'écouter, ou les abonner directement sur leur app de podcast en volant leur téléphone, en utilisant une faille qui va vous permettre de débloquer le téléphone sans qu'ils n'aient à le mettre leur doigt dessus. Vous pouvez en trouver certainement sur le dark web, j'en suis sûr. Ou alors sur patreon.com/rdvtech. Comme toujours, le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-bas et voir si vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech qui existe depuis 10 ans et depuis 5 ans grâce à vous.
Il y a sûrement ton mot de passe Patreon d'ailleurs dans le Darknet, hein, on ne sait pas.
Ah bah bien sûr, parce qu'il y a la fuite Patreon. Non mais il y a eu la fuite, si tu vas sur I have
tout
been
à fait,
found,
tout à fait, oui.
Tu tapes ton truc et ça a été sur Patreon.
C'est pour ça qu'il faut changer les mots de passe et utiliser des mots de passe complexes et utiliser l'authentification double facteur.
Et voilà.
Ben oui.
Et voilà, tout est dit.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.
Ciao.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.